Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pense que tout le monde va trouver une place, même si on est passé dans un amphi un petit peu plus petit cette semaine. Et ce sera le cas aussi pour les semaines qui suivent, parce qu'il y a un grand colloque la semaine prochaine en la mémoire de Jean-Christophe Yocoz. Donc on est venu s'installer dans cet amphi plus intime, ce qui n'est pas désagréable, au moins pour celui qui parle. On voit mieux le public. Bien, alors avant de commencer le cours lui-même, je vous rappelle le séminaire que nous aurons après, à 11h15, qui sera donné par Thierry Giammarchi, qui nous parlera donc de transition Berezinski-Kossol-Staules et de la théorie Sine-Gordon. Et ce sera un séminaire qui fera le lien entre ce qui se passe en supraconductivité et pour des gaz d'atomes froids. Et la semaine prochaine, nous aurons Tilman Fao de Stuttgart, qui nous parlera de gaz et de liquide quantique dipolaire. Voilà. Donc, je reprends avec le cours proprement dit. Et le but aujourd'hui, c'est d'étudier le point critique de la transition Kossol-Staules. Donc, pour essayer de motiver là où on en est, je vais commencer par faire un rappel de ce qu'on a vu dans les cours précédents. Donc, c'est un rappel qui va s'étaler sur trois diapositives, puisqu'on a quand même pas mal progressé depuis les trois premières semaines. Donc, je vais essayer de mettre sur ces diapositives les points essentiels de ce qu'on a vu. La question à partir de laquelle on est parti, c'est de savoir quel type d'ordre on peut attendre dans un système de basse dimension. Par ordre, on entend l'ordre cristallin, ça peut être l'ordre magnétique, comment est-ce que des petits moments éthiques vont s'aligner les uns avec les autres, ou ça peut être l'ordre superfluide, c'est ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui. Et par système de basse dimension, on entend des systèmes qui sont 2D ou 1D, mais on va essentiellement se concentrer sur le 2D dans le cours d'aujourd'hui. C'est une question qui n'est pas une question nouvelle. Hein, comme je vous l'avais dit au premier cours, le premier à se poser, c'était Peierls dans les années 30. Et ensuite, cette question avait été abordée de manière systématique par Merwin Wagner d'un côté et Hohenberg de l'autre, qui avait établi des théorèmes là-dessus. Et le théorème principal est écrit ici, c'est qu'à température non nulle, et pour des interactions, disons, entre proches voisins, ou au moins des interactions à courte portée, eh bien, on n'a pas d'ordre à longue portée dans ces systèmes. Plus précisément, on n'a pas de brisure d'une symétrie continue. Si je prends l'exemple d'une transition vers un liquide ou un gaz vers un cristal, eh bien, la cristallisation est bien une brisure d'une symétrie continue, puisque dans le liquide, il n'y a pas la symétrie de translation, elle est parfaite, alors qu'une fois que j'ai formé mon solide, eh bien, j'ai brisé cette symétrie de translation. Donc, le théorème de Merwin-Wagner, c'est ça. C'est avec des interactions uniquement à courte portée et une température non nulle, eh bien, on ne peut pas briser de symétrie continue. Et pour revenir à l'exemple de la cristallisation qu'on avait traité ensemble, eh bien, si je me pose la question, est-ce que je peux former un réseau cristallin à deux dimensions, par exemple un réseau carré, eh bien, la réponse est non, et elle est non pour la raison suivante, c'est-à-dire que si je prends un atome que j'appelle zéro et que je regarde son déplacement par rapport à ce qui serait sa position d'équilibre, je prends un autre atome à une distance grand RJ et je regarde son déplacement petit uj également par rapport à sa position d'équilibre, eh bien, quand je considère la variance du déplacement de l'atome J moins l'atome 0, donc uj moins u0 carré moyenné sur les fluctuations thermiques, eh bien, ce qu'on avait trouvé, c'est que cette variance n'était pas bornée, c'est-à-dire que quand la distance entre l'atome 0 et l'atome J tendait vers l'infini, cette variance elle-même tendait vers l'infini. Précisément, elle divergeait comme le log de la distance, log de RJ. Et le préfacteur était proportionnel à la température. Ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas d'ordre cristallin au sens strict, puisque même si je sais exactement où est l'atome 0, eh bien, si je vais chercher un atome J suffisamment loin, cette chose-là sera plus grande que le carré de la maille du réseau, et donc je n'aurai aucune information à l'échelle de la maille cristalline sur l'endroit où se trouve l'atome J. Donc il n'y a pas d'ordre à longue portée dans ce système. La même quantité calculée à trois dimensions, je vous rappelle, elle est indépendante de la distance, indépendante de RJ, et si cette quantité est petite devant un carré, eh bien c'est gagné, j'ai bien un solide. Donc, à deux dimensions, à cause de cette divergence-là, avec un préfacteur proportionnel à la température, je n'attends pas d'ordre à longue portée. Alors, nous, on ne s'intéresse pas tant que ça à l'ordre cristallin, on s'intéresse plus aux aspects de cohérence quantique qui peuvent apparaître dans les gaz d'atomes froids. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'un bon moyen pour étudier cette cohérence susceptible d'apparaître dans un gaz d'atomes froids, eh c'est de faire une approche champ classique. Cette approche champ classique, ça consiste à partir de la fonction d'un n-corps, grand phi de R1, R2, Rn, et à lui substituer une expression beaucoup plus simple, qui est une expression factorisée psi de R1, psi de R2, psi de Rn, où psi est donc un champ classique, complexe, qui dépend des deux variables x et y, puisque je suis à deux dimensions. Et ce champ complexe est caractérisé par son amplitude, bien sûr, et sa phase. Alors, son amplitude, je l'écris racine de rho. Rho est donc la densité spatiale au point R dans mon fluide. Et puis, la phase, donc, intervient sous ce terme et puissance θ. Et pour étudier ce champ classique, on avait remarqué que si on se met à finalement basse température, eh bien, alors qu'en fait j'ai donc deux fonctions réelles, ρ et θ, eh bien, on peut se borner à étudier la fonction θ parce qu'à basse température, on avait vu que c'était énergétiquement très peu favorable d'avoir des grosses fluctuations de densité. Donc à basse température, on avait vu dans le cours de la semaine dernière qu'on pouvait en fait négliger les fluctuations de ρ pour se concentrer sur θ. Donc on pouvait remplacer la densité ρ de R par simplement la densité d'un gaz uniforme, c'est-à-dire le nombre de particules n divisé par l'air de mon milieu, qui est donc L carré si L est le côté de mon échantillon. Donc là, j'ai représenté psi, le module de psi, le module de mon champ classique en fonction des coordonnées x et y. Et donc dans cette approximation où on gèle les fluctuations de densité, eh bien, on remplace cette surface un tout petit peu chahutée par une surface strictement plane. Alors, quand on fait cette approximation de gel des fluctuations de densité, eh bien, on a vu ensemble que si on prenait une approche où la phase était elle-même une fonction fluctuante mais régulière, qu'on pouvait décomposer en série de Fourier, donc une somme sur les différents moments Q, CQ et puissance IQR, eh bien, on avait établi ensemble cette relation pour la fonction de corrélation de la phase qui rappelle complètement ce que j'ai dit à la diapositive précédente pour mon cristal, c'est-à-dire que si je compare la phase en un point R et la phase en un point 0, je prends le carré de cette différence de phase, je prends la moyenne thermique, eh bien, ce qu'on avait trouvé, c'est quelque chose qui était vraiment le clone de la formule précédente, c'est-à-dire un préfacteur proportionnel à la température fois un log de la distance R entre les deux points que je considère, θ de R ici, θ de 0 là. Et puis, pour avoir quelque chose de sans dimension, on divise R par lambda t. Lambda t, je vous rappelle ce que c'est la longueur d'onde thermique, c'est donc la longueur d'onde qu'on a peut associer à une particule de masse m en physique quantique à température t. C'est, pour le dire vite, la taille typique des paquets d'ondes dans mon échantillon à température finie. Voilà, donc ça, c'est finalement la contrepartie de ce que Pyrles avait étudié pour son cristal, la contrepartie pour un gaz quantique dans lequel on regarde la cohérence. Alors, ce qu'on avait fait également la semaine dernière, c'était de passer de cette relation sur la phase θ à la fonction G1, c'est-à-dire la fonction G1, c'est ce qui me caractérise vraiment la cohérence entre deux points de l'échantillon, un point 0 et un point R. Donc je reviens à mon champ psi, qui est donc racine de rho fois e puissance iθ, et on avait injecté donc cette fonction de corrélation sur θ pour calculer la fonction G1, psi de R, psi étoile de 0, moyenne prise sur les fluctuations thermiques. Et ce qu'on avait trouvé, c'est que comme θ a cette variation logarithmique, et que je prenais e puissance iθ, eh bien, on avait trouvé que G1 variait, lui, comme une loi de puissance. Je réécris ici le résultat. G1, c'est donc la densité ρ, qui vient du fait que ici j'ai un racine de ρ dans le psi de R et un racine de ρ dans le psi étoile de 0. Donc, G1 est proportionnel à ρ. Et puis là où j'avais log de lambda t sur R dans ma phase, eh bien, quand je prends l'exponentielle de ça, j'obtiens lambda t sur R à une certaine puissance alpha. Cette puissance alpha dépendait du préfacteur qui intervenait dans la variance de la phase. Et cet exposant alpha qu'on avait trouvé, c'était rien d'autre que l'inverse 1 sur la densité dans l'espace des phases. Cette densité dans l'espace des phases, c'est encore un paramètre qu'on avait introduit, c'est un nombre sans dimension qui me caractérise le recouvrement des différents paquets d'ondes. C'est le produit de la densité spatiale ρ par lambda t carré, où lambda t est la taille d'un paquet d'ondes. Donc quand la densité dans l'espace des phases est grande, ça veut dire que les paquets d'ondes se recouvrent beaucoup, le gaz est très quantique, si on peut dire. En revanche, quand la densité dans l'espace des phases D est petite, ça veut dire que les paquets d'ondes sont très éloignés les uns des autres. Le gaz est, en bonne approximation, décrit par la physique classique. Et je vous avais donné cet exemple ici de variation de G1 avec la distance, simplement en traçant cette loi-là. J'ai pris comme exemple une densité dans l'espace des phases de 10, et G1 donc partait de... Alors c'était G1 divisé par ρ, là, que j'ai tracé. Donc G1 partait de 1, et puis décroissait très lentement, comme 1 sur R puissance 1 dixième. Et j'avais attiré votre attention sur le fait que ce comportement, donc, qui provient des interactions, puisque j'ai eu besoin des interactions pour dire que je gelais les fluctuations de densité, et donc que je pouvais me limiter à la phase, eh bien, ce comportement que je trouvais pour un gaz en interaction, c'est des croissances très lentes, comme 1 sur R puissance 1 dixième, eh bien, elle était très différente de celle qu'on avait obtenue encore avant pour un gaz parfait, où là, pour le coup, je n'ai pas de gel de fluctuation de densité, puisque mes particules n'interagissent pas les unes avec les autres. Pour un gaz parfait, on avait montré que cette G1 décroissait toujours exponentiellement, quelle que soit la température, pourvu qu'elle soit non nulle. Et pour l'exemple D égale 10, eh bien, cette fonction G1 décroissait sur une distance de l'ordre de... Enfin, le paramètre petit l ici était de l'ordre de 20 ou 30 lambda thermiques. Donc, après une centaine de lambda thermiques, ça ne valait plus rien. Alors que pour le gaz interaction, j'avais encore une cohérence forte entre les deux points séparés de quelques centaines de lambda t. Donc ça, c'est une première manifestation du fait que les interactions pouvaient m'établir de la cohérence dans un gaz, alors que pour un gaz parfait, je n'aurais pas de cohérence à cette même température. Bien, voilà, donc ça termine le rappel que je voulais vous faire. Et j'aimerais maintenant donc vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Si on fait un bilan, donc, on a vu qu'on avait ce gel d'expression de densité qui conduisait à un quasi-ordre algébrique. Ce n'est pas un vrai ordre, hein, le théorème de Mermin-Wagner s'applique toujours, mais ça décroît G1 décroît très lentement quand R augmente. Donc, ce gel d'expression de densité, il est effectif, mais il est effectif à basse température. Il est effectif dans un régime où l'énergie que ça me coûte pour faire une fluctuation de densité est supérieure ou de l'ordre de KT, l'énergie thermique typique. Quand KT devient beaucoup plus grand que le coût d'une fluctuation de densité, ben les fluctuations de densité n'ont plus de raison d'être gelées. Donc à haute température, je m'attends à ce que les interactions commencent à jouer un rôle mineur, voire négligeable, et à ce moment-là, je m'attends à retrouver le résultat du gaz parfait. Donc le grand thème du cours d'aujourd'hui, ça va être comment est-ce que s'effectue la transition entre le quasi-ordre algébrique qu'on a trouvé quand les fluctuations de densité sont gelées à la loi exponentielle qu'on attend à plus haute température, similaire à celle du gaz parfait. Est-ce que c'est une transition douce, c'est-à-dire ce qu'on traduit par crossover en anglais, ou est-ce que c'est une vraie transition de phase? On va voir que la bonne réponse, c'est que c'est une vraie transition de phase, c'est précisément la transition BKT. Et ce qu'on va voir en plus, c'est que les briques élémentaires de cette transition, qui font donc passer d'un ordre ou d'un quasi-ordre en phase à une absence d'ordre à cause de cette décroissance exponentielle, il va voir que les briques élémentaires de cette transition, ce sont les vortex. Alors les vortex, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, hein. Un vortex, c'est un zéro de densité, donc ce point-ci, et autour de ce zéro de densité, j'ai un enroulement de phase, et cet enroulement de phase est, de manière générale, 2π fois un nombre entier n, un entier relatif, positif ou négatif. En pratique, on va voir dans un instant qu'on peut se limiter à n égale plus 1 ou à n égale moins 1, c'est-à-dire un vortex de charge, qu'on appelle de charge topologique unité, qui peut être plus 1 ou moins 1, donc plus 2π ou moins 2π pour l'enroulement de phase. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire pourquoi est-ce qu'on peut pressentir que les vortex vont jouer un rôle essentiel quand il va s'agir de tuer la cohérence de phase ou le quasi-ordre en phase qui est là. C'est assez simple à comprendre. Supposons qu'on reprenne notre gaz avec des fluctuations de densité réduites, et donc ce qu'on a trouvé, c'est que si je prends deux points A et B, séparés par un certain nombre de fois lambda t, la longueur d'onde thermique, eh bien, j'ai donc un certain ordre en phase qui existe encore entre ces points. Ce n'est pas un vrai ordre, à cause de Mermin-Wagner, mais c'est un quasi-ordre. Donc j'ai une certaine distribution de probabilité pour la phase phi entre le point A et B, et cette distribution de probabilité, ben, elle est, si A et B ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre, elle est assez piquée, autour de zéro. Maintenant, supposons que vous ayez un acteur extérieur qui s'amuse à vous rajouter, de manière aléatoire, un vortex entre le point A et le point B. Alors, il ne met pas forcément exactement au milieu entre A et B, mais il met quelque part. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme un vortex correspond à un enroulement de phase de 2π, si vous faites un tour entier, si vous vous amusez à mettre un vortex ici entre A et B, si je le mets pour l'instant juste entre les deux, eh bien, il est clair que la phase φ que j'avais pour un tirage donné de mes coefficients de Fourier de ma phase, hein, je vous ai dit, j'ai décomposé la phase sous la forme CQ et puissance IQR, donc les CQ, c'est les coefficients de Fourier qui caractérisent la phase, eh bien, pour un tirage donné des CQ, si maintenant vous ajoutez ou vous pouvez ajouter ou enlever à volonté un vortex, eh bien cette phase φ va passer à chaque fois de φ à φ plus π. Puis si vous ne mettez pas le vortex exactement au milieu, mais si vous le décalez un petit peu en avant ou un petit peu en arrière, ce ne sera pas φ plus π, mais ce sera φ plus π sur 2 ou φ moins π sur 2, plus π sur 4, moins π sur 4. Grosso modo, vous allez effacer toute la connaissance de la phase φ que vous avez, puisque la phase φ va pouvoir fluctuer complètement entre un intervalle qui va entre moins π et plus π. Donc du coup, on s'attend bien à ce que dès que des vortex isolés comme ça peuvent être présents avec une certaine densité ρv, rho pour V pour vortex, eh bien, on s'attend à ce que, dès qu'on va considérer deux points qui sont séparés par une distance qui est de l'ordre de la distance moyenne entre vortex, c'est-à-dire 1 sur racine de rho V, eh bien, la cohérence en phase entre ces points va être perdue. Donc c'est un argument qualitatif, mais qui peut être mis complètement, de manière complètement quantitative sur le papier. Les vortex, quand ils peuvent exister de manière libre, vont tuer toute cohérence en phase sur une distance qui est de l'ordre de leur séparation moyenne. Voilà. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir ça de manière plus quantitative et aussi de voir ce que les vortex font sur le plan de la superfluidité, pas seulement sur le plan de la cohérence en phase. Donc je vais commencer par ces vortex isolés, là, qui sont vraiment méchants, hein, on vient de le voir, et on va essayer d'établir un seuil d'apparition pour ces vortex isolés. Alors pour ça, donc, on va regarder notre champ psi de xy, notre champ complexe, et puisqu'on a dit que les vortex étaient les zéros de ce champ, on va regarder ce que peuvent être les zéros d'un champ complexe psi de xy. Donc ce champ psi de xy, il faut l'imaginer comme un champ fluctuant, donc je peux prendre à un instant donné une photo, mais il faut bien voir qu'après, sous l'effet des fluctuations thermiques, cette photo va se déformer. Mais prenons une photo à un instant donné et regardons séparément sa partie réelle et sa partie imaginaire. Alors, je trace ici une carte de la partie réelle de psi de xy à un instant donné. Donc, il faut vous représenter ça comme une carte de la surface de la Terre, par exemple. Hein. Et puis, vous avez des zones sur la surface de la Terre qui sont au-dessus du niveau de la mer et puis d'autres qui sont en dessous du niveau de la mer. Et puis, à la frontière, bah, c'est la côte des différents continents. Donc là, c'est ce que j'ai représenté. Il y a des endroits où la partie réelle de psi de xy va être positive, et puis d'autres endroits où elle est négative, un autre endroit encore où elle est positive. C'est complètement arbitraire, hein, ce que je trace ici, mais c'est une forme générique que j'ai pour la partie réelle de psi de xy, et le long de cette ligne, donc la partie réelle de psi de xy s'annule. Ce que j'ai fait pour la partie réelle, je peux évidemment le faire pour la partie imaginaire. J'ai une autre carte avec une autre zone de frontière pour la ligne de côte, et donc là, j'ai une partie imaginaire qui est négative, et ici une partie imaginaire qui est positive, et la partie imaginaire s'annule là-dessus. Un vortex, c'est un zéro de psi, donc il faut qu'à la fois la partie réelle et la partie imaginaire soient nulles. Donc je superpose mes deux cartes, c'est ce que j'obtiens ici. Alors j'ai enlevé les couleurs, sinon on ne verrait plus rien. Enfin ici, vous reconnaissez en bleu la ligne du zéro de la partie imaginaire, et en rouge, c'est les lignes du zéro de la partie réelle. Et là où je vais chercher mes vortex, s'ils existent, c'est au point où les deux lignes se croisent, puisque là, je sais qu'à la fois la partie réelle et les parties imaginaires sont nulles. On peut aller un petit peu plus loin et voir si, effectivement, on a bien un enroulement de phase autour de ces points. Et la réponse, vous allez voir, est oui, et c'est facile à voir. Prenons, par exemple, ce zéro, là, ici. Si je me place en haut à droite, là, je suis dans cette zone-là où la partie imaginaire est positive et la partie réelle est également positive. Donc, sur un petit cercle trigonométrique, comme ça, je peux le représenter par un point qui est ici, qui est dans le premier cadran. Si maintenant, je me mets à gauche de cette ligne, ma partie imaginaire est devenue négative, mais la partie réelle est restée positive, elle. Donc je vais être ici, sur mon cercle trigonométrique, pour mon champ racine de rho et puissance θ. Si je vais là, bah, la partie réelle est devenue négative et la partie imaginaire est également négative, donc je suis dans le troisième cadran, et ici je passe dans le quatrième. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, immédiatement, vous voyez que si vous faites le tour de ce point-là, eh bien, votre point noir sur le cercle trigonométrique décrit un cercle, et en l'occurrence, si je tourne comme ça, il décrira ce cercle. Donc je passe de là à là à là, donc il décrit le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous prenez cet autre zéro ici, eh bien lui, ça tournera dans le sens opposé. Donc vous avez deux vortex comme ça, de circulation opposée. Et vous voyez que si vous prenez des zéros simples du champ comme ça, eh bien les zéros simples d'un champ complexe sont automatiquement des vortex de charge plus 1 ou moins 1. Alors on peut se demander comment est-ce que ces vortex apparaissent. Et toujours dans ce petit dessin où je trace les zéros de la partie réelle et les zéros de la partie imaginaire, mais maintenant je fais une sorte de film, c'est-à-dire je regarde ce qui se passe quand j'ai une évolution dans le temps, sous l'effet des fluctuations thermiques, eh bien à un instant donné, je peux avoir mes deux lignes, partie réelle nulle en rouge, partie imaginaire nulle en verte, qui ne se croisent pas, donc là je n'ai pas de vortex, je peux avoir un minimum de densité quelque part par là, mais je n'ai pas de vortex, et puis les lignes vont se déformer. Il peut y avoir un moment où les deux lignes sont tangentes l'une avec l'autre. À ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ben là, j'ai bien un zéro de densité, mais en fait, c'est un zéro double, ça. Donc, si vous faites le tour de ce point-ci, là, vous ne trouvez pas d'enroulement de phase. Mais ça, c'est vraiment un point très particulier. Si je pousse un cran plus loin, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir en fait ce zéro double qui va devenir deux zéros simples comme ça. Là, je retombe sur la figure que j'avais à la diapositive précédente. Et là, vous pouvez vous convaincre facilement que ça va être un vortex de charge plus 1, par exemple, et ça, un vortex de charge moins 1. Ou le contraire, ça dépend où est le signe plus et le signe moins par rapport à la ligne rouge. Mais vous voyez comme ça que la manière dont on va faire apparaître les vortex dans ce gaz, Eh bien, c'est par l'intermédiaire de fluctuations de densité importantes qui sont représentées ici. Vous avez, sous l'effet des fluctuations thermiques, un moment où la fluctuation de densité va être tellement importante que la densité va s'annuler. Un zéro de densité peut être vu à cet instant-ci comme un vortex plus, un vortex moins, l'un sur l'autre. Et puis ensuite, eh bien, ces deux vortex peuvent se séparer. C'est ce que vous voyez ici. Il y en a un qui part à gauche et l'autre qui part à droite. Évidemment, ça peut être le film peut être inversé. Vous pouvez partir d'une paire de vortex anti-vortex comme ça, et puis cette paire, les deux vortex se mettent l'un sur l'autre, et puis disparaissent. Et c'est ça qui justifie d'ailleurs l'appellation vortex anti-vortex, pour dire un vortex de charge plus et un vortex de charge moins. C'est que cette chose-là, ça se comporte vraiment comme des particules et des antiparticules. Si vous pensez aux gaz d'électrons et de positrons que vous avez en électrodynamique quantique, eh bien, vous avez en permanence des processus virtuels, vous avez des créations de paires et des annihilations de paires électrons-positrons. Eh bien là, c'est la même chose, vous avez en permanence des créations de paires et d'annihilations de paires vortex. Alors, avec un taux qui dépend de la température, parce que comme il faut faire une fluctuation de densité importante, ça se produira d'autant moins, avec une probabilité d'autant plus faible que la température sera basse. Mais néanmoins, ces processus de création et d'annihilation de paires vortex-antivortex sont en principe toujours présents, au moins si la température n'est pas strictement nulle. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, on peut essayer d'être un petit peu plus quantitatif, maintenant qu'on s'est convaincu que ces vortex devaient bien être présents dans le système. Et la première chose qu'on va faire, c'est regarder le champ de vitesse d'un vortex. Donc, on va faire les choses le plus simplement possible. Donc, on va prendre notre encombrement de phase de 2π autour d'un 0. Donc, je vais mettre mon 0, par exemple, à l'origine des coordonnées pour simplifier les notations. Et je vais supposer que l'encombrement de phase est le plus simple possible, c'est-à-dire que ma phase θ2r, c'est simplement égal à l'angle azimutal. Donc, l'angle azimutal, c'est ce que je note, ce petit phi là. Donc, la phase θ2r varie de phi égale 0 ici, pi sur 2 quand je serai là, pi, 3π sur 2, et puis 2π. Donc j'ai un moment de phase de plus de pi quand je tourne dans le sens trigonométrique. Quel est le champ de vitesse associé à ça ? Eh bien, on a déjà eu l'occasion de le dire de nombreuses fois. Le champ de vitesse associé à un champ classique, c'est le gradient de la phase θ, un coefficient h bar sur m près. Donc on ouvre son livre favori pour trouver le gradient de la phase en coordonnées polaires, et on trouve que le gradient d'une phase qui est simplement l'angle azimutal, c'est h bar sur m fois la distance à l'origine, mr, ça c'est parce que j'ai mis mon vortex en r égale 0, fois uphi, qui est donc le vecteur unitaire azimutal. C'est un vecteur qui serait comme ça. Donc là, je l'ai dessiné de manière générale. Voilà le champ de vitesse que je trouve. Ce champ de vitesse, j'attire votre attention sur le fait qu'il est en 1 sur r, ça va jouer un rôle crucial dans tout ce qui va suivre, et c'est normal qu'il soit en 1 sur r, parce que je vous rappelle que la circulation de la vitesse est quantifiée autour d'un vortex. La circulation de la vitesse, c'est l'intégrale de v sur un cercle comme cela centré en 0. Et donc, comme le périmètre du cercle croît quand j'augmente petit r, ça croît linéairement avec petit r, si je veux que la circulation de la vitesse soit constante, il faut que la vitesse elle-même soit en 1 sur r pour que l'intégrale, elle, soit, ne dépende pas de r. Et l'intégrale vaut donc, quand vous prenez ça, vaut bien 2π fois h bar sur m, ce qui est donc le quantum de quantification de la circulation de la vitesse. Alors, pour ceux qui veulent se faire une autre idée de ce champ de vitesse, là, eh bien, c'est exactement la même structure mathématique que ce que vous obtenez quand vous prenez, en magnétostatique, le champ magnétique créé par un fil rectiligne perpendiculaire au plan XY. C'est-à-dire que si mon plan XY, c'est le plan horizontal, si je prends un fil rectiligne vertical, eh bien, si vous regardez le champ magnétique qu'il y a dans ce plan, eh bien, comme vous le savez, à cause du théorème d'Enfer, la circulation du champ magnétique B, c'est simplement proportionnel au courant électrique du fil. Donc vous avez une relation qui est exactement de ce type-là. Évidemment, vous n'avez pas h-bar dedans, hein, mais mathématiquement, ça donne la même structure en 1 sur r. Et on est vraiment sur un terrain... Enfin, l'analogie magnétostatique que je développe pour un vortex ici peut se généraliser à n vortex. On le verra tout à l'heure. Donc c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête si vous êtes plus à l'aise avec la magnétostatique qu'avec ces champs de superfluides. Une chose que ne nous dit pas la vitesse ici, puisque la vitesse c'est simplement relié à la phase θ, c'est le profil de densité au voisinage du cœur du vortex. Donc au cœur du vortex, enfin en r égale 0, je dis que j'ai donc un 0 de densité. Quand je vais regarder loin, eh bien, ma densité reprend sa valeur uniforme, le nombre de particules n divisé par l carré, la surface de mon échantillon. Et ce qui va minimiser l'énergie, eh bien, c'est de prendre un profil qui correspond à un creux de densité de l'ordre de petit xi, où xi, je vous rappelle ce que c'est précisément cette longueur de cicatrisation, c'est la longueur qu'il faut pour que, quand vous mettez un défaut quelque part dans un superfluide, eh bien, ce superfluide reprenne sa valeur asymptotique. Alors, la modélisation précise de la fonction bleue, là, ça peut se calculer numériquement. En pratique, cette forme précise n'a pas une grande importance. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que donc, j'ai une annulation, une densité qui est réduite significativement sur une taille de l'ordre de xi. Et pour ce qui va suivre, eh bien, en fait, on va modéliser le cœur d'un vortex simplement par une fonction en escalier. Alors, ce n'est pas hyper précis, bien sûr, mais ça suffit largement pour ce qu'on veut faire. Donc, je modéliserai le cœur du vortex par quelque chose qui est uniforme jusqu'à r égale xi et qui est nul pour r plus petit que xi. Xi, je vous rappelle, hein, je n'ai pas dit, mais sa valeur, on l'avait trouvée ensemble la semaine dernière, c'est proportionnel à 1 sur racine de 2 fois g tilde. Alors, g tilde, je vous rappelle ce que c'est le paramètre sans dimension qui caractérise la force des interactions à deux dimensions. Typiquement, g tilde vaut un peu moins de 1 pour les gaz d'atomes froids. Pour les gaz de polariton qu'on verra la semaine prochaine, c'est plutôt de l'ordre de 1 centième. Et rho, ici, c'est donc la densité de D. Donc ça, c'est bien homogène à une longueur, puisque g tilde est sans dimension. Rho se mesure en atomes par mètre carré. Donc quand vous prenez la racine de ça et puis 1 sur, eh bien, vous trouvez bien que xi se mesure en mètres. Donc c'est bien une longueur. Voilà, donc on va prendre cette modulation-là pour le profil de densité. Incidemment, c'est important quand même de prendre je ne peux pas prendre un profil de densité qui resterait constant jusqu'en zéro, parce qu'à ce moment-là, j'aurai un gros problème de divergence. Comme ma vitesse elle-même varie comme 1 sur r, donc ma vitesse devient de plus en plus grande au fur et à mesure où je me rapproche du centre, si jamais je n'annulais pas ma densité sur une petite zone ici, eh bien, je me retrouverai avec un 1 sur R2 qui divergerait en 0, donc là j'aurai un problème. Donc il faut quand même que je fasse quelque chose, et cette fonction d'escalier est là pour ça, pour éviter les divergences de l'énergie cinétique en R égale 0. Alors cette énergie cinétique, regardons-la précisément. Donc l'énergie cinétique, je vais la calculer dans un modèle simple, qui est d'un échantillon circulaire, ça va me permettre de garder mes coordonnées polaires. Je vais mettre mon vortex au centre, là aussi ça va être simplifier les calculs. Et l'énergie cinétique, c'est donc en toute généralité 1,5 de la masse d'une particule fois la densité ρ de r fois la vitesse au carré intégrée sur mon échantillon. Et pour un vortex centré, eh bien, on a vu que donc, la vitesse, le module de la vitesse, c'est h bar sur mr. Donc calculons cette intégrale. Alors, j'ai dit que je prenais une densité ρ qui était soit uniforme, soit nulle, uniforme dans l'intervalle qui va de xi à r, donc en dehors du petit cercle blanc ici, dans toute la zone bleutée, et qui vaut 0 dans la zone blanche qui est le cœur du vortex. Donc l'intégrale qui est ici, je mets ρ à 0 entre 0 et xi, je mets ρ à sa valeur asymptotique, ρ que je peux sortir d'intégrale entre xi et r. Ma vitesse v est en 1 sur r, donc le carré sera en 1 sur r2, et puis j'ai mon jacobien en coordonnées polaires qui est 2 pi r dr. Et là, vous voyez apparaître l'intégrale de dr sur r, c'est-à-dire un log. Alors, ce n'est pas le premier log qu'on rencontre à deux dimensions, ce n'est pas le dernier non plus, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, deux dimensions, c'est le royaume des logarithmes, donc vous en avez partout, en voilà un de plus. Donc, on arrive à ce résultat-là, donc l'intégrale de 1 sur r dr entre xi et r, donc log de r sur xi, avec un préfacteur qui est donc, quand vous faites le bilan, il y a pi, il y a h bar 2 sur m, et puis il y a donc la densité rho que j'ai sorti de l'intégrale. Alors, deux remarques à propos de ça. Première remarque, c'est que cette chose-là dépend de la taille du système grand R. Ça va diverger avec la taille du système. Et ça, c'est remarquable. Hein. Un vortex, c'est quand même un objet microscopique, et la présence de cet objet microscopique, d'un seul de ces objets microscopiques, vous conduit à une énergie qui diverge avec la taille du système. Donc c'est quelque chose qui va poser problème à la limite thermodynamique. C'est-à-dire que cet objet, si jamais je veux le mettre à la limite thermodynamique, je me retrouve avec une énergie infinie. Alors, vous pourriez me dire, bon, ça dépend de la modélisation qu'on a prise pour le cœur. En fait, non. Si vous regardez ce préfacteur ici, le préfacteur, il est robuste, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la forme qu'on prend. Si vous prenez la fonction en escalier, vous trouvez ça, mais si vous prenez une modélisation plus précise de la forme du cœur, vous trouvez toujours le même préfacteur. Le log de R, il sera également toujours là. C'est la borne supérieure de mon intégrale, il sera inchangé. La seule chose qui dépend de ma modélisation, c'est le dénominateur ici. Selon que je mets la coupure à xi, à 2 xi, à xi sur 2, évidemment, je ne pourrais pas exactement la même chose, mais ça ne changera rien à la divergence logarithmique en log de R, ni au préfacteur qui est là. Alors, là, j'ai calculé l'énergie cinétique. Il y a un autre type d'énergie qu'il faut prendre en compte, bien sûr, dans ce système, c'est l'énergie d'interaction. Pour créer un vortex, il faut que je crée un trou, donc il faut que je crée une fluctuation de densité, il faut que je crée un trou de taille xi dans mon fluide, et quand vous faites le bilan de cette énergie à payer, ça, c'est des quelque chose qu'on avait calculé ensemble la semaine dernière, donc je ne refais pas le calcul, mais ça va varier comme le préfacteur qui est là, ça va être en h bar 2 rho sur m, rho étant la densité du fluide, mais en revanche, là, il n'y a pas de divergence logarithmique, donc pour un vortex unique, cette énergie d'interaction est petite devant l'énergie cinétique. Ce ne sera pas le cas quand on regardera des paires de vortex. À ce moment-là, les deux seront voisines, mais pour l'instant, quand on regarde un vortex unique, l'énergie d'interaction epsilon 0 est petite devant l'énergie cinétique. Donc, pour le vortex unique, je vais me concentrer dans ce qui suit sur l'énergie cinétique. Avant de regarder donc, finalement la thermodynamique de ce vortex unique, voir à quelles conditions est-ce qu'il peut apparaître, je voudrais vous rappeler un point important qui va jouer un rôle crucial quand on va aborder la renormalisation pour la transition BKT, qui est la notion de densité totale comparée à la notion de densité superfluide. C'est quelque chose que j'avais déjà dit la semaine dernière, mais c'est important de le redire parce que, encore une fois, c'est un point crucial pour l'approche renormalisation. Dans ce que je viens d'utiliser là et dans la manière dont on était parti la semaine dernière, on avait dit qu'on avait une énergie cinétique qui était proportionnelle donc, à l'intégrale du gradient de la phase au carré, en négligeant les fluctuations de densité, fois donc ce h bar 2 sur 2m fois rho. Et quand on écrit une structure comme ça, ça suppose implicitement que l'ensemble du fluide, qui a une densité rho, possède une rigidité en phase, puisque je dis qu'il possède une énergie qui est proportionnelle à la torsion que je mets à la phase, au gradient de phase, avec un préfacteur qui est proportionnel à la densité rho. Donc le rho qui apparaît ici, quand vous écrivez une formule de ce type-là, ça signifie que tout le fluide est superfluide, c'est-à-dire que tout ce qui a une densité rho contribue à la fraction superfluide. Alors ça, évidemment, c'est exagéré. C'est exagéré parce que notre approche champ classique, elle ne peut pas prétendre nous dire des choses sur l'ensemble du fluide. Dans l'approche champ classique, il y a implicitement une coupure à courte distance. On l'avait vu ensemble la semaine dernière. L'approche champ classique n'est valable que pour les modes qui sont fortement peuplés, donc elle n'est valable que pour les vecteurs d'ondes qui sont suffisamment petits, ou si vous préférez, elle n'est valable que pour qu'à une échelle de longueur assez grande. Ce qui se passe aux échelles de longueur très courtes, ou si vous préférez, aux modes d'énergie très grandes, l'approche champ classique, elle n'est pas capable de vous dire ce qui se passe. Donc, l'approche champ classique, elle doit être vue comme une manière de lisser les fluctuations pour ne garder que ce qui se passe à une échelle de longueur suffisamment grande, mais je ne suis pas capable de dire que tout le fluide, y compris aux échelles de longueur très courtes ou aux échelles d'énergie très grande, est superfluide. Et on verra que ce n'est pas le cas. Donc il faut, d'une certaine manière, prendre en compte la physique à courte distance tout en gardant des formules simples comme ça. Et un moyen simple qu'on a vu la semaine dernière et que je vais reprendre ici, c'est de dire, on va renoncer à ici mettre le rho qui est la densité totale. On va prendre en compte de manière heuristique cette physique à courte distance, simplement en faisant une substitution, rho donne rho s, où rho s est un paramètre qui, à ce stade, est phénoménologique, et il me décrit la densité superfluide. Je ne sais pas calculer rho s avec mon approche champ classique, mais admettons que ce rho s existe, et regardons les propriétés de mon fluide. Donc, on verra après comment dire des choses intelligentes sur rho s, mais à ce stade, dans toutes les expressions que j'ai écrites avant, qui avaient un rho total, eh bien maintenant je vais mettre rho s en me disant que j'espère que la théorie que je développerai de manière un peu plus précise me permettra de dire ce que vaut rho s par rapport à rho. Bien, alors ayant dit ça, maintenant, eh bien, regardons si ces vortex isolés, qui, je vous répète, ont tendance à tuer notre cohérence en phase, est-ce que ces vortex isolés peuvent exister dans le fluide ? Donc pour ça, eh bien, on va faire un petit bilan énergétique et entropique. Le bilan entropique, eh bien, ça consiste à se dire, j'ai mon vortex ici, jusqu'à maintenant je l'ai mis au centre, mais je peux en fait le mettre un peu n'importe où dans mon disque, et je me demande combien est-ce que j'ai de manière de mettre ce vortex dans le disque. Alors ça, c'est un petit raisonnement tout bête, on va dire qu'un vortex, il a une taille donc, typiquement de xi, le disque, il a une taille r, et donc le nombre de cases indépendantes pour placer ce vortex, eh bien, c'est simplement le rapport entre l'aire du disque et puis l'aire du cœur du vortex. Donc ça va être simplement le nombre de cases indépendantes, c'est r carré divisé par xi carré. Puis maintenant, pour une case donnée, quelle est la probabilité qu'il y ait un vortex dans une de ces cases ? Eh bien ça, c'est simplement le facteur de Boltzmann, exponentielle moins e sur kt, et pour e, eh bien, on va dire qu'on est dominé par l'énergie cinétique. L'énergie d'interaction, je vous l'ai dit, pour un vortex isolé, est beaucoup plus faible. Donc la probabilité qu'un vortex existe dans une de ces cases, c'est exponentielle moins e cinétique sur kt. Alors, pour les ascétiques, je vais utiliser l'expression qu'on a trouvée pour un vortex centré. Si mon vortex n'est pas au centre, en fait, il faudrait que je reprenne mon intégrale en cornet polaire. Ce sera un petit peu compliqué, mais ça ne me changerait pas le log de R qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, je me contente de loi d'échelle à ce stade. Donc, je garde l'expression que j'avais pour une ascétique pour un vortex centré, même si je sais qu'en fait, si je voulais être rigoureux, il faudrait que je modifie légèrement le coefficient qui vient se mettre au dénominateur ici. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Énergie E sin sur KT qui est là. Eh bien, je reprends donc l'expression de l'énergie cinétique que j'avais tout à l'heure, ce pi h bar 2 sur m fois rho qui est devenu rho s, pour l'argument que j'ai dit tout à l'heure, l'argument heuristique sur la densité superfluide, log de r sur xi, et puis j'ai 1 sur kt. Et puis là, ben, vous voyez apparaître h bar 2 sur mkt, ça c'est la longueur d'onde thermique au carré, un facteur 2 pi près. Donc, cette énergie cinétique sur kt, je peux le réécrire la densité dans l'espace des phases, ds, associée à la densité super, enfin, associée à la fraction superfluide, puisque ce que j'ai, c'est rho s ici, divisé par 2, quand vous faites les calculs, log de r sur xi. Donc la probabilité pour une case donnée, exponentielle moins e sin sur kt, eh bien, c'est donc cette exponentielle d'un log. L'exponentielle d'un log, c'est évidemment l'argument lui-même, donc r sur xi, ou plus précisément xi sur r, parce que vous avez un signe moins ici. Donc la probabilité pour une case donnée, c'est que xi sur r à la puissance ds sur 2, le préfacteur du log qui est là. Et si je veux maintenant la probabilité totale, eh bien, il faut que je multiplie la probabilité pour que j'ai un vortex dans une case donnée fois le nombre de cases, R2 sur Xi2, et j'arrive donc à une probabilité totale qui s'écrit Xi sur R à la puissance moins 2 plus DS sur 2. Le moins 2, c'est simplement le R2 sur Xi2 que j'ai réécrit en fonction de Xi sur R. Que penser de ça ? Donc je le réécris ici, cette probabilité totale, et ce qui va se passer, eh bien, tout va dépendre du signe de cet exposant. Si l'exposant est positif, hein, si moins 2 plus ds sur 2 est positif, ou en d'autres termes, il y a une manipulation relativement simple, si ds est plus grand que 4, à ce moment-là, j'ai un exposant positif, donc quand je vais prendre ma limite thermodynamique, quand je vais faire entendre r vers l'infini, la probabilité p va tendre vers 0. Pour le dire en termes thermodynamiques, ça veut dire que le coût énergétique, c'était ce qui venait du ds sur 2, il est supérieur au gain entropique, qui venait du moins 2, c'était le nombre de configurations possibles que j'avais, ce que j'ai appelé W. Le coût énergétique est donc supérieur au gain entropique. La probabilité d'avoir un vortex qui apparaît n'importe où dans mon échantillon tend vers 0, donc je n'aurai pas de vortex isolé, si ma densité dans l'espace des phases associée à la fraction superfluide est plus grande que 4. En revanche, si ds est plus petit que 4, hein, donc à ce moment-là, cet exposant est négatif, à ce moment-là, j'obtiens une probabilité qui est plus grande que 1, à la limite thermodynamique. Alors évidemment, vous allez me dire une probabilité plus grande que 1, ça ne veut rien dire. Bien sûr, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même la signature de quelque chose. Ça me dit simplement qu'en fait, je vais faire apparaître un vortex, puis un autre, puis encore un troisième, etc. Et les vortex vont proliférer. Ils ont une grande probabilité d'exister dans mon disque. Donc, on en arrive au petit diagramme des phases suivantes, qu'on va enrichir au fur et à mesure. Quand je trace en fonction de la densité dans l'espace des phases superfluides, j'ai une frontière qui a ds égale 4, et ce que je vois pour l'instant, c'est que quand ds est plus grand que 4, je n'ai pas de vortex isolé. Quand ds est plus petit que 4, j'ai une prolifération de vortex isolé, et donc une perte du quasi-ordre. Hein, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais plus avoir d'ordre en phase, de quasi-ordre à longue distance, si mes vortex isolés prolifèrent. Ce qu'on perd également, c'est la superfluidité dans cette zone-là. Et ça, c'est assez simple à voir. On perd la superfluidité parce que, une fois que vous avez cette prolifération de vortex isolés, eh bien, vous ne pouvez plus avoir de courant métastable. Or, l'existence de courant métastable est une signature essentielle, enfin une condition nécessaire, de superfluidité. Alors, un moyen de comprendre ça assez simplement, c'est de considérer une géométrie en forme d'anneau. Je prends mon système 2D, mais au lieu de le mettre rectangulaire, je replie mon rectangle pour former un anneau, comme ça. Et je suppose que j'ai, à un instant donné, un certain courant dans mon anneau, c'est-à-dire que la phase de mon champ classique qui décrit superfluide potentiel dans cet anneau, elle a un enroulement de 2 pi fois grand N. Alors grand N peut être n'importe quoi, mais non nul pour dire que j'ai un courant superfluide. Supposons maintenant que des vortex isolés puissent exister dans cet échantillon. Bien, en particulier, si des vortex isolés peuvent exister, je peux très bien avoir un vortex isolé qui est à un moment sur le bord ici, et puis ce vortex va se balader, va traverser mon anneau et va sortir ici. Et c'est assez facile de se convaincre que quand ça se produit, eh bien, l'enroulement de phase qui initialement valait 2 pi fois grand N, eh bien, une fois que le vortex isolé, suivant qu'il ait une charge plus 1 ou moins 1, eh bien, après qu'il a traversé et qu'il est passé de l'autre côté, Le roulement ne sera plus 2π fois grand N, mais il sera 2π fois grand N plus 1 ou 2π fois grand N moins 1, encore une fois, selon que la charge du vortex est plus 1 ou moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des vortex isolés qui peuvent se balader dans l'anneau, comme ça, de manière aléatoire, eh bien, votre courant qui part à la valeur 2π fois grand N ici, il va passer son temps à fluctuer, il va faire un mouvement, une sorte de mouvement brownien, et très rapidement, sa valeur moyenne va devenir 0. Certes, il pourra fluctuer de part et d'autre de 0, mais en tout état de cause, il ne va pas rester à la valeur 2πn indéfiniment. Donc, dès que vous avez des vortex isolés, vous perdez aussi la superfluidité. Vous perdez l'ordre en phase, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais vous perdez aussi la superfluidité. Une remarque importante, qui va faire le lien avec le paragraphe qui va suivre, c'est que cette perte de superfluidité qu'on voit avec un vortex isolé, elle ne se produit pas si vous prenez une paire de vortex antivortex, celle que j'avais vue qui apparaissait quand j'avais une petite fluctuation de densité. Si vous prenez une paire de vortex antivortex, c'est-à-dire si vous avez un vortex de charge plus 1 juste à côté d'un vortex de charge moins 1, et que cette paire part du bord intérieur pour aller vers le bord extérieur, là, à ce moment-là, la paire totale porte une charge nulle, donc le courant, lui, il s'en fiche qu'il y a une paire vortex-antivortex qui se traverse. Le courant qui vaut initialement 2πn continuera à valoir 2πn quand cette paire sera passée du bord intérieur au bord extérieur. Donc les paires vortex-antivortex ne sont pas un problème. Ce qui est un problème pour les courants métastables, ce sont vraiment les vortex isolés. Bien, et bien, ayant dit ça, ça fait une transition naturelle vers ces paires vortex-antivortex. Elles, je vous ai dit, elles sont forcément présentes dans l'échantillon si j'ai des fluctuations de densité. Donc, une fois qu'on a vu tout le mal que pouvaient faire des vortex isolés, c'est naturel de se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour ces paires? Alors, c'est quoi une paire vortex-antivortex? Eh bien, c'est simplement, ça consiste simplement à prendre un vortex de charge positive, disons ici, donc avec un enroulement dans le sens trigonométrique, et puis un vortex de charge négative avec un enroulement dans le sens contraire. Donc, un enroulement de phase comme ça. Si vous voulez reprendre l'analogie magnétostatique, eh bien, le champ de vitesse que je veux obtenir ici, que je veux obtenir simplement en superposant le champ de vitesse des deux vortex, ça je le justifierai un petit peu plus tard de manière rigoureuse, eh bien, c'est l'analogie magnétique, c'est simplement de prendre deux fils parcourus par des courants de modules égales mais de sens opposés, et vous regardez quel est le courant créé dans le plan par ces deux fils. C'est juste ça. Alors qu'est-ce qu'on obtient quand on fait ça? Eh bien, on obtient un champ qui va avoir une structure dipolaire, puisque on va avoir un champ de structure donc dipolaire, et ce champ de structure dipolaire, donc, au lieu de varier comme 1 sur R en fonction de la distance, comme c'était le cas pour un vortex isolé, va varier comme 1 sur R2. C'est-à-dire que, comme vous le savez, quand vous avez une charge, le champ créé par une charge est dans 1 sur R, et puis dès que vous mettez deux charges de signes opposés côte à côte, eh bien, la décroissance à l'infini est plus rapide. Puis si vous en mettez 4, vous faites un champ quadrupolaire, c'est encore plus rapide. Donc là, au lieu de faire un champ en 1 sur R, un champ de vitesse en 1 sur R à l'infini, on fait un champ en 1 sur R2, et ça va tout changer, parce que ça va faire converger des intégrales qui avaient une fâcheuse tendance à diverger tout à l'heure. Donc voilà à quoi ressemble le champ créé par ces deux vortex-là, pas de surprise, j'en ai un ici, un là, donc quand je me mets au milieu, là, les deux champs de vitesse s'ajoutent, donc là j'ai une vitesse qui va être le double de ce qu'elle était avant, et au contraire, si je me mets loin par là, eh bien les deux se soustraient, puisqu'il y en a un qui tend à... celui-ci tend à faire une vitesse qui va vers le bas, alors que celui qui est là tend à faire une vitesse qui va vers le haut, donc il se compense, c'est le passage de 1 sur R à 1 sur R2 que je vous disais à l'instant. Voilà, donc, ayant vu ça maintenant, donc, quelle est l'énergie associée à cette paire de vortex, énergie cinétique et énergie d'interaction? Donc, comme je l'ai dit, la vitesse maintenant est en 1 sur R2, donc le carré de la vitesse est en 1 sur R4, et donc quand je vais regarder l'énergie cinétique, eh bien, cette énergie cinétique est donc l'intégrale de v carré des deux r, eh bien, maintenant, elle va la converger, en plus l'infini, puisque vous allez avoir du 1 sur r4 fois le jacobien à deux dimensions qui est du r dr, donc vous allez vous récupérer une intégrale de 1 sur r cube, et l'intégrale de 1 sur r cube converge à l'infini. Donc le log de r qui traînait dans l'énergie cinétique d'un vortex isolé va disparaître, et j'obtiens un résultat qui est fini, et quand vous faites le calcul de l'intégrale, donc là, on peut le faire, dans les notes, je vous donne un résultat général après avec n vortex, donc vous pouvez l'utiliser dans ce cas particulier pour deux vortex, vous trouvez la formule suivante, donc, qui ressemble beaucoup à ce que j'avais pour un vortex, mais le point essentiel, c'est que là où j'avais tout à l'heure la taille de l'échantillon grand R qui intervenait, maintenant, la taille de l'échantillon grand R est simplement remplacée par la distance entre les deux vortex, petit l. Donc c'est quelque chose qui, encore une fois, est un objet qui est fini, enfin une quantité qui est finie. Et le préfacteur, il est toujours la même structure, H bar 2, la densité superfluide ρs, cette quantité heuristique à ce stade, divisé par la masse d'une particule. L'énergie d'interaction, elle, elle est toujours présente. J'ai créé deux trous de densité, donc j'ai toujours un prix à payer pour ça. Je vous avais dit tout à l'heure que pour créer un trou de densité, c'était h bar 2 rho s sur m, un préfacteur près qui dépend de la modélisation du trou de densité. Eh bien là, je vais payer donc une énergie qui est 2 fois epsilon 0, puisque je dois créer deux trous de densité. Et une fois qu'on a ça, vous remarquez qu'en fait, à ce stade, maintenant, ce que j'avais annoncé tout à l'heure, pour cette paire de vortex, l'énergie cinétique qui est écrite ici et l'énergie d'interaction qui est écrite là, ou là, eh bien, elles sont comparables. Si vous prenez une distance entre les deux membres de la paire qui n'est pas très grande devant la longueur de cicatrisation, donc pas très grande devant la taille d'un cœur de vortex, eh bien, si vous prenez L égale 2 ou 3 xi, cette quantité-ci et cette quantité-là sont voisines l'une de l'autre. Donc les deux sont à prendre en compte dans la théorie. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, intéressons-nous, exactement comme on l'a fait pour un vortex unique, à la probabilité d'apparition d'une paire de vortex. Donc, j'ai une énergie totale pour ma paire qui va s'écrire donc 2 epsilon 0, créer les deux trous, plus l'énergie cinétique de cette paire. Cette énergie cinétique, on a vu qu'elle valait ça. Donc, le poids de Boltzmann va s'écrire exponentiel moins l'énergie totale divisée par kT. Et quand vous faites le calcul, eh bien, vous pouvez mettre cette expression sous la forme suivante. Le epsilon 0 sur kT qui apparaît ici, je vais le réincorporer dans un paramètre que je vais appeler Y0 dans toute la suite. Alors, je l'appelle Y, c'est la tradition de l'appeler Y. Évidemment, ce n'est pas très heureux comme notation parce que Y, c'est aussi un des deux axes de mon plan. Je parle toujours du plan XY. Donc, ne mélangez pas le Y, qui est un des axes de mon plan, avec le Y0, qui est cet exponentiel de l'énergie de cœur d'un vortex divisé par kT. Je respecte les notations habituelles, donc je garde ça. On va l'appeler la fugacité d'un vortex, ce Y0. Et donc, comme j'ai puissance moins 2, epsilon 0 sur kT qui est ici, je sors un Y0 carré. Et puis j'ai mon énergie cinétique qui est donc un log, donc exponentiel d'un log, même chose que tout à l'heure, je récupère l'argument du log qui est donc xi sur L, à la puissance, le préfacteur du log qui est ici, et ce préfacteur, vous reconnaissez la densité dans l'espace des phases, associée à la fraction superfluide. Ça, c'est valable si la distance entre les cœurs des vortex est supérieure à la distance entre les cœurs, est supérieure à la taille d'un cœur elle-même. Si les vortex sont l'un sur l'autre, cette formule-ci n'est plus trop valable, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est quand L est supérieure à xi. Donc, c'est ça que je veux dire. Et donc, le point, c'est que si vous avez une densité dans l'espace des phases superfluide ds qui n'est pas très grande devant 1, eh bien, cette probabilité ne va pas être complètement négligeable. Si ds est très très grand devant 1, ça coûte beaucoup d'énergie de créer un trou de densité, mais si ds n'est pas trop grand devant 1, quand vous regardez, tous ces nombres-là sont d'ordre 1, donc il y a une probabilité qui n'est pas négligeable, au moins si je ne prends pas des élongations, elles, trop grandes, si je prends des élongations comparables à la longueur de cicatrisation. Alors essayons de voir ça d'un tout petit peu plus près. Quelle est l'élongation moyenne d'une paire? Si je vous dis j'ai une paire de vortex dans un gaz, un vortex plus en point RA, un vortex moins au point RB, quelle est la distance moyenne entre RA et RB? Alors, j'ai cette loi qu'on vient de trouver pour P de L, je reviens en arrière, pardon, c'est ici. J'ai cette loi qu'on vient de trouver pour P de L, ici, procès à xi sur L à la puissance ds. Voilà, ici. Et je regarde donc la valeur moyenne de RA moins RB, ou la variance. La valeur moyenne, elle est bien sûr nulle par raison de symétrie. Il n'y a pas de raison que le vortex plus ou le vortex moins ne puissent pas échanger leur place. Donc, la valeur moyenne de RA moins RB est égale à 0. Mais que vaut la variance? Donc, pour calculer la variance, eh bien, je dois simplement prendre la valeur moyenne de L carré avec ce poids P de L ici, et puis le jacobien de pi L dL en coordonnées cylindriques. Et donc, je calcule cette valeur moyenne-là, et un calcul simple me donne le résultat suivant. Xi carré, le xi qui figure ici, fois ds, la densité superfluide, moins 2, sur ds, moins 4. Donc cette quantité-là doit être évidemment positive pour que ça ait un sens. Donc il faut que ds soit plus grand que 4, que ma densité superfluide soit plus grande que 4. Ce 4, c'est la même chose que ce qu'on avait trouvé pour le seuil d'apparition d'un vortex isolé. C'est toujours ce ds égale 4 qu'on a déjà vu une fois, qu'on revoit ici et qui va réapparaître encore plus tard quand on ira regarder le groupe de normalisation. Donc on se retrouve avec un diagramme qui est comme ça. Pour cette échelle ds, là, donc on a dit que dans la zone 0 à 4, on a une prolifération de vortex isolés, la densité superfluide s'annule, donc ds vaut 0, ce calcul-là n'a pas de sens. Quand ds est plus grand que 4, à ce moment-là, ce calcul-là a un sens, je n'ai pas de vortex isolé, Et quand je regarde donc, comment se comporte l'élongation d'une paire, eh bien, c'est une quantité qui est donc d'ordre xi2, donc mes paires sont très proches l'une de l'autre et sont de l'ordre de la taille de leur cœur de vortex tant que ds est grand devant 4, ou grand, oui, enfin, c'est ça, nettement supérieur à 4, et puis quand ds décroît et se rapproche de 4, eh bien, la distance moyenne entre les deux membres d'une paire diverge tant vers plus l'infini quand ds tend vers 4 par valeur positive. Voilà, donc gardez ce dessin en mémoire, c'est quelque chose qui va revenir dans la suite. Bien, alors, on a traité un vortex unique, on a traité la paire de vortex, donc maintenant, il est temps de passer au gaz à la limite thermodynamique, donc une assemblée de vortex potentiels. Que se passe-t-il pour cette assemblée? Alors, les calculs deviennent assez vite compliqués, je ne vous le cache pas, donc je ne vais pas les faire tous ici, ça me prendrait beaucoup plus qu'une heure pour le faire. J'ai essayé de les mettre tous dans les notes, ceux qui veulent aller les lire et les refaire en détail, n'hésitez pas à le faire, et en particulier si vous trouvez des fautes de frappe, n'hésitez pas à me les signaler. Là, je vais me contenter de donner, dans cette partie-ci, en trois diapositives, les éléments essentiels, enfin, que je pense essentiels pour mener ces calculs. Et le premier élément essentiel, c'est la notion de champ de vitesse longitudinal et champ de vitesse transverse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donnons-nous un champ, alors en l'occurrence un champ de vitesse, mais ça peut être un champ quelconque défini sur l'espace, donnons-nous un champ V de XY, donc à deux dimensions ici. Je peux prendre sa transformée de Fourier, donc passer dans l'espace des moments, V de Q, défini comme ça, donc à deux dimensions. Et une fois que je suis passé dans l'espace de Fourier, c'est souvent très utile, pas seulement, encore une fois, en hydrodynamique, mais également si vous faites de l'électromagnétisme, c'est souvent très utile de décomposer ce champ dans l'espace de Fourier en une composante longitudinale, c'est-à-dire une composante qui est parallèle au moment Q, et une composante transverse, c'est-à-dire une composante qui est perpendiculaire au moment Q. Donc la composante qui est parallèle au moment Q, ça consiste simplement à prendre V, le projeter sur Q et remultiplier par le moment Q et normer le résultat en disant par 1 sur Q2. Et puis la composante perpendiculaire, c'est simplement la V de Q total moins la composante parallèle. Donc là, j'ai fait un petit dessin pour rendre les choses plus claires, j'espère. Donc là, vous êtes dans le plan QX, QY, dans l'espace des moments. Vous avez votre vitesse V de Q, enfin la transformée de Fourier du champ de vitesse V de Q ici. V parallèle, simplement la projection sur Q de V de Q, et V perpendiculaire est comme ça. Deux dimensions, c'est très simple. On peut faire des dessins. Pourquoi c'est intéressant, ça? Eh bien, c'est intéressant quand on revient dans l'espace réel, parce que dire que V parallèle est parallèle à Q, donc, eh bien, ça veut simplement dire que c'est un champ dont le rotationnel est nul, puisque je rappelle que prendre le rotationnel dans l'espace réel, c'est prendre le produit vectoriel par rapport à Q. Donc, si vous avez V parallèle qui est parallèle à Q, ben, son produit vectoriel avec Q, c'est 0. Donc, le rotationnel dans l'espace DR vaut 0. Et V perpendiculaire, au contraire, lui, est un champ de divergence nulle. Donc ça, c'est commode parce que ça permet donc de séparer le champ de départ en un champ de rotationnel nul et un champ de divergence nul. Et on peut tout de suite voir pourquoi c'est pertinent dans le cadre qui nous intéresse. C'est que si je reviens au cours précédent et au champ de vitesse associé au phonon, c'est-à-dire le champ de vitesse que j'avais obtenu en prenant ma phase, en supposant que cette phase variait doucement dans l'espace, que je pouvais la décomposer en série de Fourier, eh bien, cette phase, donc, je l'avais décomposée sous la forme somme sur des moments de CQ et puissance IQR, et le champ de vitesse associé à ça, c'est donc le gradient de la phase, H bar sur M, gradient θ, et quand vous prenez ensuite la transformée de Fourier de ça, eh bien, vous trouvez que V de Q, quand vous prenez le gradient dans les puissances IQR, vous obtenez simplement Q fois CQ, donc ça veut dire que le champ de vitesse V de Q associé à ces phonons, c'est simplement Q fois CQ, donc c'est quelque chose qui est collinaire avec Q. Donc, de manière naturelle, la première partie des champs de vitesse à laquelle on peut songer, à savoir les phonons, eh bien, il obéit bien à cette classification, il est dans la classe des champs longitudinaux. On va voir que les vortex, au contraire, eux, sont dans la classe des champs transverses. Alors pourquoi c'est ça? Eh bien, donnons-nous une assemblée de vortex. On va prendre une assemblée de vortex de charge totale nulle, c'est-à-dire que je vais prendre des vortex plus 1, moins 1, que je peux répartir de manière aléatoire dans le plan, mais je prends une charge totale nulle pour ne pas avoir un champ de vitesse qui divergerait comme qui se comporterait comme un sur R à l'infini et qui conduirait à une énergie cinétique divergente, comme on l'a vu pour un vortex. Donc, je me limite à des assemblées qu'on peut qualifier de neutres, si vous voulez, au niveau de charge topologique. J'ai autant de vortex positifs que de vortex négatifs. Et ce qui est commode, c'est une fois qu'on a défini donc, les charges de QJ des vortex et leur position RJ, ce qui est commode, c'est d'introduire la densité de vortex ρV, qui est simplement la somme sur tous les vortex présents des QJ fois la distribution de Dirac R centré au point RJ. Et ce que je vais faire, donc, c'est m'intéresser à l'énergie cinétique de cette assemblée et je vais chercher l'énergie cinétique minimum que je peux obtenir compte tenu de la contrainte que je veux mettre un vortex de charge Q1 au point R1, un vortex de charge Q2 au point R2, etc. Donc, je me prends ma formule pour l'énergie cinétique, gradient θ au carré, où θ maintenant a des singularités, puisque j'ai une singularité dans tous les points RJ, et je prends donc cette énergie cinétique-là, et je me pose la question, comment est-ce que je peux minimiser cette énergie cinétique tout en respectant bien le fait que je veux mettre tous mes vortex QJ au point RJ. Alors ça, c'est un problème de minimisation assez simple. C'est des problèmes qui se posent également en magnétostatique ou en électrostatique. Et on trouve que la fonction θ qui minimise l'énergie cinétique compte tenu de la contrainte de mettre des vortex au point que je veux, c'est de chercher une fonction θ dont le laplacien est nul. C'est simplement l'équation de Laplace, finalement, à deux dimensions. Donc, je cherche une fonction θ de laplacien nul qui satisfait le fait qu'elle a des singularités, plus de pi ou moins de pi, au point RJ. Alors, je vous passe les calculs. La solution de l'équation de Laplace à deux dimensions passe par le fait qu'on connaît la fonction de Green bien. C'est simplement, encore une fois, le logarithme, encore un log. Le laplacien d'un log à 2D, c'est 2π fois delta de R. Et une fois qu'on connaît cette fonction de Green, eh bien, c'est assez simple de trouver la phase θ et donc de trouver le champ de vitesse, puisque le champ de vitesse, c'est gradient de la phase. Et ce champ de vitesse, eh bien, il s'écrit de la manière suivante, donc c'est une formule un petit peu rébarbative, mais néanmoins bien assez facile à comprendre. J'ai un moins h bar sur m en facteur, et puis j'ai un rotationnel, donc ça va être un champ transverse, j'ai un rotationnel d'une quantité, qui est elle-même un champ. Ce champ, il est parallèle à l'axe z, et il fait intervenir simplement l'intégrale sur tout mon échantillon de ma fonction de Green, le log de r, log de r moins r', fois rho v de r', ma densité de vortex des deux r'. Donc c'est le produit de convolution, si vous voulez, de la densité de vortex rho v qui est écrite là-haut, fois cette fonction log de r moins r'. Donc ça, c'est bien, parce que ça nous relie finalement le champ de vitesse des vortex, créé par toutes les assemblées de vortex, à cette fonction rho v, c'est-à-dire l'endroit où je les ai mis. Donc c'est finalement un lien entre la position et la vitesse. Et incidemment, je trouve que ce champ de vitesse, le champ de vitesse total, c'est la somme de tous les champs de vitesse, puisque rho v, ici, est une somme sur les vortex individuels. Donc, le champ de vitesse que j'obtiens, c'est la somme des champs de vitesse individuels. C'est ce que j'avais appliqué, sans le justifier, quand j'avais regardé le champ de vitesse créé par une paire. Et puis, comme je l'ai dit, puisque ce champ de vitesse v, c'est un rotationnel dans certains champs, eh bien, ce champ de vitesse lui-même est purement transverse. Ça, c'est important à prendre en compte pour simplifier les calculs ultérieurs. Donc, si je fais un bilan, vous voyez, j'ai sauté plein de calculs, mais j'espère vous avoir donné une petite idée de la manière dont on s'y prend. Si je fais un bilan, eh bien, on a identifié deux composantes à ce champ de vitesse qu'on va traiter comme deux composantes découplées. Une première, c'est le champ de vitesse qui est lié au phonon, qui est purement longitudinal, qui est caractérisé par les fluctuations, les coefficients de Fourier de la phase θ de R, CQ. Champ de vitesse, donc c'est le gradient de cette phase, donc c'est ce que j'ai dit, c'est Q, le vecteur fois CQ fois epsilon CQR. Et puis le champ de vitesse qui est lié au vortex, lui, qui cette fois-ci est purement transverse et qui est caractérisé par la densité de vortex rho v, somme sur J des QJ delta de R moins RJ. Et maintenant, eh bien, on va faire de la thermodynamique. Donc on va regarder la probabilité de voir apparaître une certaine configuration pour ce champ de vortex, donc une certaine configuration caractérisée par tout un lot de coefficients, les coefficients de Fourier CQ pour la partie phononique de mes excitations, et puis la partie liée aux défauts topologiques, si vous voulez, c'est-à-dire la charge de ces défauts QJ et la position de ces défauts RJ. Et donc la probabilité, ce sera, comme toujours, un facteur de Boltzmann, exponentielle moins E sur KT. Voilà, donc maintenant, on en passe au dernier paragraphe de ce cours, qui donc va être finalement le plus gros morceau, si je puis dire, puisque c'est lui qui va contenir l'apparition vraiment de la transition BKT. Mais là encore, je vais me contenter de donner les grandes lignes et je vous renvoie vers soit les notes, soit des ouvrages, si vous voulez aller voir tous les détails des calculs. Donc, la question qu'on se pose vraiment maintenant, c'est, prenant en compte toute cette assemblée de vortex, est-ce que j'obtiens quelque chose qui est superfluide ou non ? Alors, je vous rappelle les deux propriétés caractéristiques de la superfluidité. On avait passé beaucoup de temps l'an dernier à les établir et je vous ai déjà rappelé au cours dernier, mais je les redis encore. Première propriété, c'est l'existence de courants permanents métastables, C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour vous dire que la prolifération des vortex isolés était quelque chose de néfaste. Et puis, la deuxième propriété, qui est celle sur laquelle on va centrer notre raisonnement maintenant, c'est la notion de rigidité en phase. Et je vous avais expliqué la dernière fois que cette notion de rigidité en phase est directement liée à une expérience, qui est l'expérience du récipient tournant. Le fait de dire que j'ai un fluide qui est rigide en phase, ça signifie que si je le mets dans un récipient et que je mets ce récipient lentement en rotation, eh bien ce fluide, plutôt que tourner avec les parois du récipient, préférera rester au repos dans le référentiel galiléen du laboratoire. Donc on va se concentrer sur cette deuxième propriété de la superfluidité pour caractériser précisément la transition superfluide. Alors comment est-ce qu'on l'étudie, cette rigidité en phase ? Donc je vous rappelle qu'en général, quand on étudie des systèmes thermodynamiques, on prend des conditions limites périodiques pour les fonctions d'onde qui décrivent le système. C'est-à-dire que si vous avez un échantillon à deux dimensions de taille grand L, eh bien on pose que psi de x plus L, y, est égal à psi de x, y plus L, égale psi de x, y. Et à ce moment-là, eh bien, on calcule l'énergie libre de cet échantillon, ce que je note F de 0 ici. Mais comme ce qui m'intéresse, c'est la notion de superfluidité, là je vais prendre des conditions limites différentes, je vais supposer que je tords la phase dans mes conditions limites, et je vais m'intéresser à la réponse du système du fait de cette torsion de phase. Donc je vais supposer que selon une des deux directions de l'espace, disons la direction x, eh bien j'abandonne cette condition limite périodique pour la remplacer par une condition limite qui est psi de x plus l y égale e puissance iθ psi de x y. C'est-à-dire que quand je passe de x à x plus l, je ne récupère pas la fonction que j'avais au départ, mais j'ai changé sa phase légèrement. Le θ ici va être un infiniment petit, je vais le traiter comme un nombre très petit devant 1. Sur la direction y, là je garde des conditions limites périodiques, donc j'ai toujours ce psi de x, y plus l égale psi de x, y. Et je vous rappelle que ça, la raison physique de ça, c'est passer dans le référentiel tournant. Quand vous passez dans le référentiel, quand vous prenez l'expérience du baquet tournant et que vous passez dans le référentiel lié à ce baquet, ça devient un référentiel non galiléen. Et si vous voulez faire de la physique dans ce référentiel non galiléen, eh bien, vous devez prendre de manière effective des conditions limites tordues comme ça pour décrire l'aspect non galiléen de ce référentiel. Et donc le point crucial, c'est que si vous avez fait un superfluide, eh bien, ça coûte de l'énergie au superfluide de se mettre en mouvement dans la référence du laboratoire, donc d'être au repos dans le référentiel tournant. Et c'est précisément ce coût en énergie qui caractérisera la superfluidité. Donc, pour revenir en termes mathématiques, la chose qu'on va regarder maintenant, c'est quel est le coût énergétique de cette torsion en phase. Donc, je vais l'écrire sous cette forme-là, ce coût énergétique, F de θ égale ce que j'ai quand je ne tords pas en phase, donc F de 0, ce que j'avais écrit là-haut, plus quelque chose qui, on peut le voir simplement, le premier terme non nul va être en θ carré, puisqu'il est bien clair que si je prends plus θ ou moins θ, par symétrie, je dois obtenir la même chose, donc les termes linéaires en θ ne doivent pas figurer dans ce développement, et le premier terme en nul, je l'attends en θ carré. Et une fois que j'aurai cette énergie libre en fonction d'un développement en θ comme ça, eh bien, je peux trouver ma densité superfluide simplement en m'intéressant à ce terme-là, au préfacteur devant le terme en θ carré. C'est-à-dire que je vais prendre la dérivée seconde de f par rapport à θ, multiplié par m sur h bar 2, et ça, bien, c'est quelque chose qui est bien homogène à une densité, et c'est la définition même de la densité superfluide. Et pour ceux qui auraient des doutes, eh bien, vous pouvez vous convaincre que c'est exactement ça qui figure dans cette expression heuristique que j'avais mise pour ρs. Quand je vous avais dit que l'énergie était comme en h bar 2, ρs fois gradient θ au carré, eh bien, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est-à-dire que l'énergie libre que vous trouvez, c'est directement relié, enfin, la dérivée seconde de l'énergie libre est directement reliée au préfacteur ρs qui est écrit là. Alors les calculs pour mettre ça en place, c'est-à-dire pour appliquer cette définition et voir si mon gaz en présence de vortex est ou non superfluide, eh bien, se déroulent en trois étapes. La première étape, ça va être de relier cette énergie libre, ou si vous préférez la densité superfluide, c'est-à-dire la dérivée seconde de l'énergie libre, à la fonction de corrélation vitesse-vitesse au sein de mon milieu, au sein de mon gaz. Une fois qu'on aura ça, la deuxième étape, ça consistera à dire qu'en fait, les phonons n'ont aucune importance, seuls comptent les vortex, et puis, donc, relier à ce moment-là, ρs à la fonction de corrélation de la position vortex-vortex dans le gaz. Et la troisième étape, c'est mettre en place la renormalisation sur l'expression à laquelle on sera arrivé. Donc, encore une fois, je vais esquisser chacune de ces trois étapes sans rentrer dans les détails des calculs pour ne pas passer trop de temps. Donc, allons-y. Déjà, comment est-ce que je prends en compte des conditions limites tordues ? Ça, c'est assez simple à voir. Si vous vous imposez que dans la direction x, vous devez passer de psi à e puissance i theta psi quand vous parcourez une distance grand L, eh bien, vous pouvez voir ça comme un gradient de phase uniforme, c'est-à-dire que vous rajoutez à votre système un gradient de phase qui vaut simplement grand θ sur L, de telle sorte que la phase passe bien de 0 quand x égale 0 à grand θ quand vous avez pris x égale L. Donc, un moyen simple de prendre en compte des conditions limites tordues comme ça, c'est de mettre un gradient de phase uniforme, ou si vous préférez, puisque la vitesse c'est le gradient de la phase, mettre en place un champ de vitesse additionnel au champ qu'on a déjà vu pour les phonons et pour les vortex, un champ de vitesse additionnel qui est simplement proportionnel à grand état, h bar grand état sur ml, donc son gradient c'est bien h bar sur m pour ce gradient-là, ça correspond bien aux conditions limites tordues. Donc une fois que je fais ça, eh bien, j'ai donc un champ de vitesse total qui est la somme de ce champ de vitesse additionnel, Vθ, plus le champ de vitesse Vs, superfluide, lié au phonon et au vortex qu'on a calculé tout à l'heure. Donc l'énergie cinétique, eh bien, c'est la somme, c'est l'intégrale de la vitesse au carré fois la densité superfluide que je sors. Et donc, comme j'ai l'intégrale, j'ai un carré ici, je peux développer ce carré. Donc j'ai un terme qui va être Vθ carré, qui lui est tout simple, je peux le sortir de mon intégrale sur R, puisque c'est une constante, donc j'effectue l'intégrale sur R, et j'ai la taille de mon échantillon L carré qui sort. J'ai le terme carré VS ici, qui lui me donne la même chose que si je ne mettais pas des conditions limites tordues, donc lui, c'est ce qui me donnera l'énergie libre pour un système avec des conditions limites traditionnelles. Et puis j'ai le terme qui est le plus important, celui sur lequel il faut travailler, c'est le terme croisé entre Vθ et puis l'intégrale du champ Vs. Voilà, donc ça c'est l'expression de l'énergie cinétique avec mes conditions limites tordues. Vous noterez que ici j'ai mis un ρs, comme tout à l'heure, mais je lui ai mis un indice, ou plutôt un exposant 0 ici, pour dire que ça va être le point de départ de mon raisonnement. Mais ce n'est pas forcément la densité superfluide à laquelle je vais arriver au terme du raisonnement. Pour le dire plus précisément, je répète encore une fois que introduire un ρs dans ce cadre, c'est avoir fait le choix d'une certaine échelle de longueur. Et ce que j'ai dit, c'est que tout ce qui se passe en dessous de cette échelle de longueur est absorbé dans l'ρs, et la seule chose que je suis capable de décrire par cette approche champ classique, c'est ce qui se passe au-delà de cette échelle de longueur. Si vous voulez, je regarde mon système avec un microscope, mais ce microscope il a un certain pouvoir de résolution, et tous les détails qui sont en dessous de mon pouvoir de résolution, je ne les vois pas. Donc, le ρs que j'ai là, il résulte d'un certain choix d'une échelle de longueur que je note petit a, et le ρs0 donc réfère à la densité superfluide quand je regarde mon système avec cette résolution petit a. Donc toutes les fluctuations de phase, de densité dont l'échelle de longueur est plus petite que petit a sont prises en compte par la substitution ρs donne ρs0. Alors, ayant fait ça, eh bien maintenant, la première étape du raisonnement est assez simple. Tout ce qu'il faut, c'est prendre notre énergie grand E, la mettre dans la fonction de partition, donc je vais prendre mon z qui dépend de ma torsion en phase grand état, sous forme donc exponentielle, somme sur toutes les configurations possibles, donc tous les possibles CQ de ma phase, tous les défauts topologiques possibles, exponentielle de moins e sur kt. Une fois que j'ai ma fonction de partition, eh bien je peux trouver l'énergie libre simplement en prenant moins kt fois log de z. Et je vous rappelle que cette énergie ici, c'est la somme d'énergie d'interaction que je laisse de côté pour l'instant, elle va réapparaître naturellement dans un instant, plus l'énergie cinétique, dont on a vu qu'elle avait trois termes, un terme qui est un terme constant en Vθ carré, que je vais pouvoir sortir de la somme, et donc qui va apparaître dans le F de θ comme sous forme d'un terme bien à part, le terme en Vs carré, qui est le terme que j'aurai en l'absence de torsion de phase, et puis le terme intéressant, qui est celui-ci. Alors je vous ai dit que ce qui m'intéressait, c'était un calcul à ordre 2 en θ. Donc ce terme-là est naturellement d'ordre 2 en θ, ce terme-là, il ne dépend pas de θ, donc il va être tel quel, et ce terme-là, il est d'ordre 1 en θ, puisque Vθ est proportionnel à θ, donc ce terme-là, il faut le développer lui-même à l'ordre 2. Quand vous prenez l'exponentielle ici, ou le log là, il faut lui-même aller à l'ordre 2. Donc je vous passe les détails. Quand on fait le calcul, donc, ce qu'on trouve, c'est la chose suivante. F de θ va contenir un premier terme, qui est simplement ce Vθ carré, que j'ai simplement réécrit ici, un deuxième terme qui vient de cette intégrale-ci, qui est le f de 0, plus un terme qui est le terme croisé qui vient de ça, que je vais prendre à l'ordre 2. Donc je n'écris pas f de θ elle-même, mais ce que j'écris, c'est ce que j'obtiens quand je pense à dérivée seconde par rapport à θ, C'est ça qui m'intéresse, hein, puisque ce que je veux, c'est une densité superfluide. Donc, je vous ai dit que la densité superfluide, c'est la dérivée seconde par rapport à θ. Donc, quand je prends ma dérivée seconde par rapport à θ de f de θ, je tiens ρs, ça c'est ce que je cherche, égale la contribution de ce terme-ci, de ρs0. Ce terme-ci ne dépend pas de θ, donc il ne figure pas. Et puis, le terme croisé, qui est la partie intéressante. Et ce terme croisé, ben, il fait intervenir donc, cette intégrale de Vs, mais prise à l'ordre 2. Donc, ça fait intervenir en fait la fonction de corrélation, vitesse-vitesse, au sein de mon échantillon. Vsx, Vsx, plus précisément, puisque j'ai tordu mes conditions limites selon l'axe x. Et puis, j'ai un ρs0 carré qui intervient. Et ça, je dirais, c'est, si vous devez garder un seul message, eh bien, c'est peut-être celui-là qu'il faut garder, parce que ça me dit que, partant de mon ρs0, en regardant mon système à l'échelle de longueur petit a, eh bien, ce que je vois, c'est que je peux avoir une réduction possible, tout dépend évidemment de la valeur de ce terme-ci, mais je peux avoir une réduction possible du fait des phonons et des vortex si cette chose-là ne vaut pas zéro. Donc, toute la question maintenant, c'est qu'est-ce que ça vaut ça ? Est-ce qu'effectivement, ça me réduit ma densité superfluide ρs0 de manière significative ? Alors, on attaque maintenant la deuxième étape, qui est essayer d'évaluer cette fonction de corrélation vitesse-vitesse et, en fait, vous allez voir, la remplacer par des choses qui ne portent que sur les vortex. Alors, pourquoi ça ne porte que sur les vortex ? Eh bien, ça, c'est assez simple de le voir. Quand vous avez cette fonction de corrélation vitesse-vitesse qui est apparue ici, donc j'ai simplement réécrit le résultat précédent, je peux remplacer Vs là-dedans par un champ longitudinal qui est le champ des phonons plus un champ transverse qui est le champ lié au vortex. C'est très facile de voir que la contribution des phonons, en fait, vaut zéro, parce que justement, j'ai affaire à un champ longitudinal, et dans cette intégrale-ci, si je permute le signe somme et la moyenne, enfin le signe intégral et la moyenne, eh bien, l'intégrale de V parallèle des deux R de mes phonons, c'est simplement l'intégrale à H bar sur M près du gradient de cette phase que je peux développer en série de Fourier, et donc si je prends des conditions limites simples pour cette phase, eh bien, ça vaut zéro. Donc ce que je trouve, c'est que si je n'avais affaire qu'aux phonons, eh bien, tout ce membre-ci vaudrait 0, et je trouverais simplement ρs égale ρs 0. C'est-à-dire que les phonons, eux, ne réduisent pas la densité superfluide. Et ça justifie ce que je vous ai dit la semaine dernière. Hein. Je vous avais dit, j'ai ces fluctuations de phase liées aux phonons, mais ce n'est pas grave, j'ai toujours un superfluide. Eh bien, la vraie raison, elle est là. C'est parce que quand on fait le calcul précis de la densité superfluide, eh bien, on trouve que la correction qui est là s'annule pour un champ longitudinal, donc les phonons n'ont aucune influence sur la densité superfluide. En revanche, les vortex en ont bien une. Et quand on fait le calcul plus précisément, donc je prends maintenant la contribution du champ de vortex qui est là, Vs perpendiculaire. Je vous avais montré comment je pouvais relier le champ de vitesse des vortex à la densité des vortex, ce que j'appelais ρv. Hein, c'est une des formules qui a terminé tout à l'heure, c'est un produit de convolution avec un log quelque part. Donc là, il y a des calculs un petit peu velus à faire, mais enfin bon, on y arrive. Et quand on remplace donc V, ce V-là et ce V-là par ces fonctions de densité de vortex, eh bien on arrive à un terme qui est donc ce que j'avais là-haut, le moins est échangé en un plus, j'ai toujours mon ρs0 carré qui est ici, et puis cette fonction de corrélation vitesse-vitesse a été remplacée par une fonction de corrélation position-position, ρv fois R2. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas ces préfacteurs qui sont un petit peu rébarbatifs, passer à des quantités sans dimension, en l'occurrence la densité dans l'espace des phases, qui est une quantité que j'aime bien. Donc, je multiplie tout ça par lambda t carré, et donc j'ai la densité dans l'espace superfluide ds égale lambda densité superfluide ds0, avec l'échelle de longueur que je me suis fixée au départ, plus quelque chose qui est en ds0 carré fois cette fonction de corrélation. Alors, vous pourriez vous dire, oulala, c'est bizarre d'avoir un plus là, est-ce que ça veut dire que les vortex augmentent la densité superfluide ? C'est-à-dire, je pars de ds0, est-ce que j'augmente ? Est-ce que j'ai un plus, donc est-ce que je l'augmente ? La réponse est non. Non, non, cette quantité-là est négative. Et ça, c'est facile de le voir. Vous voyez, ça fait intervenir ρv de R, ρv de 0. Et on a bien vu que les vortex apparaissaient par paire de charges topologiques opposées. Donc si j'ai un vortex de charge plus en un point, je sais que au voisinage, j'ai un vortex de charge moins. Donc en fait, ρv fois ρv est quelque chose qui est négatif à cause de cet appariement des vortex avec des charges opposées. Donc ce terme-ci, ici, tout ça, est bien négatif. Donc le ds est bien plus petit que le ds0, il n'est pas plus grand. Les vortex n'augmentent pas la densité superfluide, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de la réduire. Alors, on peut, à ce stade, faire un calcul perturbatif. Ce calcul perturbatif, le principe de ce calcul perturbatif, c'est de faire un développement en puissance de la fugacité d'un vortex. C'est y0 que j'avais introduit tout à l'heure. c'est un développement perturbatif qui consiste à dire, ben, plaçons-nous dans une situation où ce n'est pas si facile que ça de créer des vortex. Donc, j'ai une certaine énergie epsilon 0 qui est importante par rapport à KT, qui est un coût pour créer un trou de densité quelque part. Donc, pour évaluer cette fonction de corrélation, là, eh bien, on va faire un développement perturbatif en puissance de Y0. Alors, le terme d'ordre 1 en Y0, qui consisterait à créer un vortex isolé, lui, je peux l'oublier, je ne veux pas de vortex isolé. Donc, le premier terme sera une paire de vortex, donc un terme en Y0 carré, puis après, j'aurai un terme suivant qui sera deux paires de vortex en Y0 4, etc. Donc, on fait un développement comme ça. On connaît la loi de probabilité pour l'élongation d'une paire, hein, on l'avait trouvée ensemble, c'était une loi en 1 sur R, enfin, il y avait un préfacteur ici, mais ce qui m'intéresse, c'est le comportement en fonction de R, 1 sur R, DS0. Donc, on injecte tout ça dans le développement en puissance de Y0. Donc, je regarde le premier terme non nul, apparition d'une paire de vortex, donc j'ai quelque chose en Y0 carré qui apparaît ici. Et puis, j'ai une intégrale donc, qui va sur toutes mes paires partant de l'échelle de longueur que je me suis fixée, que j'ai appelée petit a, jusqu'à plus l'infini, de ce 1 sur R qui apparaît ici, donc le 1 sur R que vous retrouvez ici. Et puis, comme vous avez un R carré qui est là, et puis dans le jacobien, vous avez un RDR qui est en plus, donc vous avez R carré fois R, c'est un R cube, donc vous avez un moins 3 qui apparaît là, parce que c'est j'ai mis un 1 sur R. Donc, il s'agit, au-delà des formules un peu compliquées, de bien comprendre ce que ça représente, ça. A, c'est l'échelle de longueur en dessous de laquelle j'ai supposé que les fluctuations de densité sont prises en compte dans le DS0. Et donc, ce que je prends ici en compte, c'est ce deuxième terme, c'est la réduction de la densité superfluide liée au vortex pour toutes les paires de vortex qui ont une élongation supérieure à petit a. Les paires de vortex qui ont une élongation plus petite que petit a sont supposées incluses là-dedans, et tout ce qui est supérieur à petit a, c'est cette correction qui figure cette fois-ci explicitement dans ma formule. Alors, un détail technique presque évident, mais qui simplifie bien la vie après. Là, vous voyez, vous avez une équation qui est du type ds égale ds0 moins ds carré, moins ds0 carré. Donc, c'est du type y égale x moins x2. C'est plus simple à ce moment de travailler avec 1 sur y, et vous pouvez, toujours avec un développement limité, mais c'est valable puisque ça, on a supposé que c'était petit devant ça, on fait un développement en puissance de y0, vous pouvez le réécrire sous la forme 1 sur ds égale 1 sur ds0, c'est le premier terme, et puis celui-ci, eh bien, quand vous le passez de ds à 1 sur ds, le ds0 qui était là au carré disparaît, et vous vous retrouvez simplement avec cette expression simple, 2π2 y0 carré, intégrale de a plus infini de l'intérieur. Voilà. Donc ça termine la deuxième étape que je voulais donner, c'est que j'ai relié donc la densité superfluide totale, si vous voulez, enfin oui, prenant en compte tout, à la densité superfluide avec l'échelle de longueur petit a, plus ce terme correctif. Et maintenant, eh bien, il s'agit de comprendre comment est-ce qu'on peut en déduire de ça qu'il y a effectivement une transition de phase qui se produit. Et là, on n'échappe pas à passer par une étape qui inclut le groupe de renormalisation. Alors, c'est Kosterlitz le premier qui a fait ça. Cette étape, il faut avoir une certaine foi pour la parcourir, c'est-à-dire qu'il faut croire à ce qu'on peut appeler une invariance d'échelle. C'est-à-dire qu'il faut croire que dans ce système, je suis au voisinage d'une transition de phase, et je peux donc appliquer les principes du groupe de renormalisation, c'est-à-dire me dire que le système, que je le regarde à une échelle ou que je le regarde à une autre, doit avoir les mêmes propriétés globales. Alors évidemment, quand je dis c'est un acte de foi, ce n'est pas seulement un acte de foi, on peut le vérifier avec des simulations numériques, on peut le vérifier expérimentalement. Mais néanmoins, il y a implicitement cette hypothèse qui a cette possibilité d'absorber de manière avec une échelle, enfin, autant qu'on veut les fluctuations et qu'on se ramène toujours au même système quand on change d'échelle pour le regarder. Alors comme là encore, je vais pas du tout détailler les calculs, je vais simplement esquisser la démarche. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça? Eh bien, l'idée, c'est de se dire que jusqu'à maintenant, on a intégré toutes les fluctuations de densité, les paires de vortex, sur une échelle de longueur petit a. Donc, on est à petit a. On va être un tout petit peu plus gourmand. On va passer de petit a à quelque chose d'un tout petit peu plus grand, c'est-à-dire a fois 1 plus epsilon. Donc, quand on fait ça, on va intégrer dans le DS0 un petit peu plus que ce que j'avais avant. Donc je définis comme ça un 1 sur ds0 tilde, qui est le 1 sur ds0, et puis en utilisant l'expression que j'avais avant, dans mon intégrale, je coupe mon intégrale qui allait de a plus infini en deux morceaux, et le premier morceau qui va de a, 1a fois 1 plus epsilon, je le réintègre dans le ds0. Ça, c'est la première étape du groupe de renormalisation. J'augmente un petit peu je diminue un peu le pouvoir de résolution de mon microscope en intégrant un peu plus dans le DS0 tilde de paires de vortex. Et puis après, comme je veux quand même me ramener au système initial, je fais une transformation d'échelle, une homothétie, pour ramener A fois 1 plus epsilon sur A. Et ça, si vous regardez l'expression que vous aviez juste avant pour 1 sur DS0, eh bien, c'est simplement un champ de variable dans l'intégrale. Ça se fait en changeant également la fugacité d'un vortex, c'est-à-dire en remplaçant le Y0 par Y0 tilde fois Y, enfin, par Y0 fois 1 plus epsilon à la puissance 4 moins DS0 sur 2. Ça résulte du champ de variable dans l'intégrale. Et si maintenant donc vous traitez epsilon comme un infiniment petit, et puis vous dites je vais répéter cette procédure un nombre arbitraire de fois, et regardez ce qui se passe. Eh bien, tout ce qu'il suffit de faire, c'est prendre ça et différencier par rapport à epsilon. Donc, vous obtenez une équation différentielle d de 1 sur ds0 sur dεepsilon, égale simplement le préfacteur ici, de pi 2y0 carré. Ici, pareil, vous différenciez par rapport à epsilon. Donc, vous avez un dy0 sur dεepsilon, égale y0 fois 1,5 de 4 moins ds0 sur 2. C'est l'exposant qui apparaissait là. Et vous avez donc une évolution que vous allez avoir en fonction des deux paramètres qui me caractérisent mon système, à savoir la densité superfluide et puis la fugacité d'un vortex, vous allez avoir une équation différentielle pour ces deux, couplée pour ces deux quantités. Et toute la question est de savoir vers quoi on converge quand on applique comme ça cette procédure de manière récurrente. Et le diagramme auquel on arrive est celui-là. Alors vous avez ici mes deux paramètres, y0 en ordonnée, et puis 1 sur ds0, donc la densité superfluide en abscisse, ou plus précisément l'inverse de la densité superfluide. Donc, les gaz très dégénérés de grande densité superfluide sont à gauche, les gaz peu dégénérés de faible densité superfluide sont à droite. Et puis ici, vous avez 1 sur ds égale 1 quart, c'est-à-dire ds égale 4, le point qu'on a déjà vu être important à la fois pour un vortex et pour une paire de vortex. Et bien, ce point-là réapparaît de manière naturelle dans l'étape de tout le groupe de renormalisation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, supposons déjà qu'on parte d'ici d'une valeur où la densité superfluide est plus grande que 4, initialement, et puis une fugacité Y0 qui est assez petite. Donc, je ne prends pas un Y0 trop haut, là-haut, je le prends ici. Dire que Y0 est assez petit, comme Y0, je vous rappelle, c'est l'exponentielle de l'énergie d'un vortex divisé par KT, ça veut dire que j'ai une fugacité Y0 qui est assez petite, donc ça veut dire que créer un trou de vortex coûte quand même de l'énergie. C'est pas anodin de créer un trou pour un vortex, il faut payer une énergie qui est significative. À ce moment-là, quand vous intégrez les équations différentielles qui sont précédentes, donc vous appliquez cette augmentation de A plus epsilon, puis vous renormalisez, etc., eh bien, vous trouvez que vous convergez vers une situation où ds reste plus grand que 4 et y0 est passé à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Y0 passé à 0, ça veut dire que l'énergie pour créer un vortex est devenue infinie. Essentiellement, vous avez effacé tous les vortex. C'est-à-dire que le système que vous aviez au départ, où vous aviez une certaine densité superfluide et des vortex présents, potentiels, eh bien, il est analogue, similaire, à un système où vous avez effacé les vortex et vous avez réduit un petit peu la densité superfluide, vous voyez, puisque je me suis déplacé un petit peu vers la droite, donc 1 sur ds a un petit peu augmenté, donc ds a un petit peu diminué. Mais ce n'est pas bien méchant, ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un moyen comme ça d'effacer les vortex, simplement, par cette étape, et on garde une densité superfluide non nulle. Au contraire, si je pars d'ici, c'est-à-dire je pars d'une densité superfluide qui est inférieure à 4 initialement, et puis n'importe quelle fugacité en fait pour les vortex, eh bien quand vous appliquez cette procédure de normalisation, ce que vous trouvez, c'est que vous suivez cette ligne-là et vous partez comme ça vers plus infini. Donc vous avez un ds, densité superfluide, qui va tendre vers 0, donc vous perdez toute la superfluidité, et puis vous voyez que Y0 augmente, ce qui veut dire que les vortex deviennent de plus en plus faciles à créer, ils prolifèrent, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est très facile de créer des vortex isolés. Donc je perds complètement la superfluité si DS est inférieur à 4. Et donc vous voyez qu'on est bien en présence d'une transition de phase. Là. Selon que je pars en dessous de cette ligne-là ou n'importe où ailleurs dans le plan, ce qui se passe ici c'est un petit peu compliqué, mais enfin bon, on perd aussi la superfluité, selon que je pars ici ou là, j'obtiens un comportement radicalement différent. Donc la question que j'avais initialement, à savoir, est-ce que c'est une transition douce entre la loi algébrique et puis la loi exponentielle, ou est-ce que c'est une transition de phase ? Eh bien, la réponse, c'est bien une transition de phase, c'est bien une transition brutale. Mais c'est une transition brutale qui est radicalement différente de celle auquel vous pouvez être habitué dans le cadre du modèle de Landau pour les transitions de phase. La manière dont on trouve les transitions de phase habituellement, transition de phase du premier ordre, du deuxième ordre, ça part toujours pareil, on commence par calculer l'énergie libre, mais ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une discontinuité dans l'énergie libre, on cherche une discontinuité dans une dérivée de l'énergie libre. Et à ce moment-là, on en déduit que certaines fonctions thermodynamiques qui s'expriment comme les dérivées partielles de l'énergie libre, l'entropie, la pression, peuvent être discontinues. Là, l'énergie libre est complètement continue. Il n'y a pas du tout de discontinuité, ni dans l'énergie libre, ni dans ses dérivées. Toutes les fonctions thermodynamiques usuelles, pression, entropie, densité totale, sont parfaitement continues au point de transition. Cette transition, on la trouve en faisant quelque chose qui est plus subtil que les transitions de phase ordinaire. On prend cette condition limite tordue, donc on calcule une densité superfluide, et c'est la densité superfluide, qui n'est pas une quantité thermodynamique, c'est elle qui est discontinue à la transition. Elle passe de 4 par valeur supérieure à 0 quand je vais mettre à droite. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça, c'est que ce n'est pas une transition au sens de transition de phase habituelle, et c'est, je pense, pour ça que le jury Nobel a tenu à récompenser Kösterlin et Staules. Voilà. Il me reste encore quelques minutes. Je vais prendre ces quelques minutes pour vous décrire la toute première mise en évidence de cette transition de phase, qui a été faite très très peu de temps en fait après la prédiction de Kösterlin et Staules. Je vous rappelle le calendrier. Hein. Mermin-Wagner, donc impossibilité d'un vrai ordre à longue portée, c'est milieu des années 60. Kösterlin, Staules et Berezinski, c'est le début des années 70, 72-73. En fait, le papier de Kösterlin sur le groupe de normalisation que j'ai très brièvement décrit, c'est 74. Et en 77, les premiers résultats expérimentaux tombent. Ce sont des expériences qui sont vraiment superbes, qui ont été menées dans le groupe de John Repi, à l'Université de Cornell. Et ces expériences ont été menées donc sur des fluides quantiques, sur des films d'hélium. Alors ces films d'hélium sont effectivement des gaz à deux dimensions. C'est des gaz où vous avez essentiellement quelques couches atomiques, disons entre 1 et 10 couches atomiques, adsorbées sur une feuille de Millar, qui est donc le substrat. Cette feuille de Millar, elle n'a pas la taille de l'État du Texas, pour reprendre l'expression que j'avais la semaine dernière, mais néanmoins elle est grande, en tout cas pour les gens qui font des atomes froids ou des polaritons, c'est beaucoup plus grand que nos échantillons avec des atomes froids, c'est une feuille qui avait une surface de l'ordre du mètre carré. Vous l'enroulez sur elle-même, comme cela, et puis l'idée, c'est donc précisément d'appliquer la définition de la fraction superfluide, c'est-à-dire on va chercher, en mettant la feuille de Millar en mouvement, en la faisant tourner, on va voir si le film d'hélium qui est en surface se met à tourner ou pas aussi. Et sinon, on regarde combien est-ce que reste au repos dans le référentiel du laboratoire. Donc cette feuille de Millar, tout ça, ça se passe évidemment dans un cryostat, hein. Cette feuille de Millar, elle est ici, elle est suspendue par un pendule de torsion, en fait, une barre de torsion ici, et cette barre de torsion donc, peut osciller. Elle oscille avec un facteur de qualité qui est vraiment remarquable. Elle oscille à une fréquence qui est aux alentours de 2600 Hz, donc une fréquence acoustique un petit peu aiguë, mais enfin qu'on peut écouter. Et cette fréquence, on la mesure avec une précision de 5·10⁻¹. Pour les expérimentateurs dans la salle, c'est pas mal, hein, c'est vraiment une très très bonne précision. En gros, ça vous dit que vous avez une fréquence qui vaut une fraction de milliseconde, et vous la mesurez à 2 picosecondes près. Hein, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça ? Eh bien, on voit exactement ce qui est caractéristique d'un comportement superfluide. C'est-à-dire que quand on regarde la période de l'oscillation de ce pendule, donc mesuré ici en nanosecondes, eh bien, quand la température est assez haute, on voit une période constante, ce qui signifie que vous avez un moment d'inertie pour le système qui correspond au moment d'inertie totale, à la fois de la feuille de Millar et puis du film d'hélium qui est absorbé, tout oscille en même temps, l'hélium et le Millar. Et puis, quand vous baissez la température, vous avez une transition relativement brutale, mais je vais y revenir, de la période d'oscillation, et puis après elle décroît encore. Donc vous avez une période d'oscillation qui décroît, c'est-à-dire que vous avez un moment d'inertie qui est réduit, ça veut dire simplement que la feuille de Millar continue à osciller, mais le film d'hélium qui était en surface, lui, a décidé de devenir superfluide, donc il reste au repos dans le référentiel du laboratoire, donc vous avez quelque chose qui est comme ça, et donc vous avez une réduction du moment d'inertie que vous pouvez mesurer comme ça. Alors, la théorie et l'expérience se comparent de manière très favorable, surtout si on prend en compte l'aspect dynamique de la mesure. On me fait une mesure qui n'est pas une mesure de thermostatique, ce qui se correspondra à la théorie qu'on a développée jusqu'à maintenant. On fait une mesure à 2,6 kHz, donc il faut prendre en compte le fait que les vortex doivent bouger ou ne pas bouger avec cette fréquence-là. Donc il faut en fait enrichir la théorie Kösterlin-Staules pour lui donner un aspect dynamique. Et quand on fait ça, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la théorie qu'on a vue ensemble, qui donc est représentée par ce pointillé avec ce saut de la densité superfluide qui passe brutalement de DS, enfin densité, dans l'espace des phases, qui passe de 4 à 0 qui est ici, eh bien ce saut brutal est remplacé en fait par quelque chose d'un petit peu plus doux et les points expérimentaux se mettent de manière magnifique sur cette courbe. Donc l'accord théorie-expérience est vraiment magnifique et on a une confirmation aux aspects dynamiques près de ce saut universel de DS, de la densité superfluide qui passe de 4 à 0. Voilà, donc je conclue, c'est ma dernière diapositive. Donc, le cours d'aujourd'hui, on a vu quand même un phénomène essentiel, qui est cette transition BKT. On a vu qu'elle se produisait donc entre deux types d'états, quand on varie la température. À basse température, donc à grande densité, si quelqu'un téléphone, à grande densité superfluide, on a donc, enfin, à grande densité dans l'espace des phases, on a un état superfluide, et la densité superfluide est forcément supérieure à 4. On a un quasi-ordre algébrique, un G1 de R en 1 sur R puissance alpha. Et quand j'augmente la température, eh bien, il y a un moment où la densité superfluide saute de 4 à 0, et à ce moment-là, G1 de R devient exponentiel. Et en termes de vortex, ça correspond à des paires de vortex dilués comme ça, qui brusquement, enfin pas brusquement, mais qui deviennent de plus en plus élongés, je ne sais pas comment on dit, allongés, oui. Étirés, merci, et de plus en plus étirés, et ce qu'on a vu, c'est que leur distance moyenne diverge quand DS atteint 4, et en dessous de 4, eh bien, les vortex prolifèrent. Donc, on a vu cette loi universelle sur la densité superfluide, qui fait donc intervenir, enfin, densité dans l'espace des phases superfluides, qui fait donc intervenir le rapport densité superfluide divisé par la température. À ce stade, on n'a pas encore caractérisé complètement le système, parce que ce qu'on n'a pas encore vu, et ce sera l'objet du cours suivant, c'est le lien entre la température critique qu'on trouve ici et la densité totale. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne sais pas comment relier la densité superfluide que j'ai ici à la densité totale. On a vu sur les manips que la densité superfluide saute, mais la question est, à quelle densité totale est-ce que ça se produit? Ça, c'est ce qui nous occupera la semaine prochaine. Voilà, je m'arrête ici. Merci pour votre attention. Merci.